Voilà, on continue notre parcours sur cette question des fins dernières, qui est un sujet assez tonique. Je vous ai dit la dernière fois que je ne sais pas si vous allez en sortir indemne, mais que moi, en préparant, j'en suis pas tout à fait sorti indemne, mais ça continue. Donc, c'est un petit avis pour les nouveaux. Le café caté, au point de vue oratoire, c'est un peu un exploit. Parce qu'à cause du bruit de la salle, au mois de janvier, on avait de la sangle, c'est-à-dire on n'avait pas d'argent, il n'y avait personne dans la salle en bas, donc c'était très bien. Mais quand la salle est bruyante, c'est très fatigant. Donc, et comme je capte tous les retours, ce que je vous demande, une seule chose, c'est de ne pas parler, je crois. Même pas que moi je fais là, au voisin, parce que j'entends, ça me fatigue et on perd du temps. Voilà. Bon, c'est une petite manie d'orateur, mais voilà, c'est tout. Et puis, ne vous inquiétez pas si parfois le vocabulaire est un peu imagé, je crois. C'est direct. Alors voilà, on tâche de progresser. Je vous ai donné le plan la semaine dernière. Donc on va d'abord voir trois points de passage, la mort, le jugement particulier ce soir, le jugement général au mois de mars. Et puis ensuite on verra les trois lieux où aboutissent les âmes après la mort. Donc d'abord le purgatoire, ensuite l'enfer et le ciel. Je ne sais pas exactement quel ordre j'ai prévu, mais je vous rappellerai. Donc là on arrive à un deuxième point de passage. C'est la question du jugement particulier qui suit immédiatement la mort. Alors, pour préparer ce topo, j'ai essayé d'approfondir plus l'aspect philosophique, enfin l'aspect de ce qu'on peut dire avec la raison. Pour l'aspect, disons, j'en dirais aussi un peu quelque chose au point de vue de l'exhortation, si vous voulez, les conséquences morales qu'il faut tirer de la méditation du jugement, mais vous trouverez ça plus facilement dans mon livre, là, donc ce livre sur les fins dernières, que je pourrais dédicacer la semaine prochaine, ou bien dans des ouvrages pieux. Et je vous ai mis à la fin, donc de la deuxième page, une petite bibliographie. Je vous ai mis à nouveau un passage de l'Imitation de Jésus-Christ, que je vous conseille de lire dans la traduction de Félicité de Lamennais, qui vous permet de faire du bon français en même temps. Alors c'est juste un petit chapitre, hein. Faites-vous offrir ça pour vos 15 ans de mariage, ou vos 7 ans de mariage. Ensuite, j'ai mis un truc de Bossuet, ça vous ne trouverez pas comme ça en librairie, mais si vous fouillez dans une bibliothèque, c'est un magnifique serment sur l'impénitence. Et puis un très beau livre du père Garrigou Lagrange, un dominicain qui est mort dans les années 60, à la fois très théologique et très, très pieux, très nourrissant pour la vie intérieure. Et un livre un peu original d'un père Melkite, donc d'un père de rite oriental, le père Abra, qui a réfléchi sur ce thème à la lumière des pères grecs. Donc c'est un très beau livre avec beaucoup de citations, j'en ferai peut-être une ce soir. Et enfin, un livre d'un certain théologien, Joseph Ratzinger, qui l'a terminé juste avant de devenir archevêque de Munich. Et puis enfin, le classique, le best-seller, Catéchisme de l'Église catholique. Donc vous avez une bonne documentation, vous pourrez vous y reporter, au moins en partie. Alors là, il y a donc deux parties dans le propos de ce soir. D'abord, on va parler de quel est l'état de l'âme après la mort. Donc c'est ce que j'ai appelé l'indestructibilité de l'âme humaine. J'ai fait exprès de employer le mot indestructibilité, qui est un peu bizarre, au lieu de dire l'immortalité, qui est terme consacré, vous allez voir pourquoi. Alors la première question qu'on se pose, c'est de savoir si la totalité de l'homme disparaît à la mort. On a un peu évoqué ça, on l'a survolé la dernière fois rapidement, la position des sceptiques, des matérialistes, etc., qui tâchent déjà depuis l'Antiquité de faire de la mort comme simplement une espèce d'illusion que l'homme aurait à exorciser dans sa vie, et au fond l'idée est qu'on débouche sur le néant. Une idée pas très encourageante, mais qui tend un peu ou qui tendrait à anesthésier la mort. Alors aujourd'hui, les réponses sont un peu plus variées. Il y a l'idée qu'après la mort, c'est le néant. Alors certains, c'est assez curieux, parce qu'une fois qu'on a dit ça, on devrait être terrorisé, quoi, parce que personne n'aspire à aller dans le néant. Mais enfin, bon, avec l'effet de la passion, certains pensent que ça supprime le problème, ce qui n'est pas le cas. Enfin, il y a une deuxième réponse, c'est qu'après la mort, on se réincarne, on en dira quelque chose tout de suite, ou bien après la mort, tout le monde va au ciel. Alors on va le voir, les trois réponses sont inadéquates. Alors le matérialiste surtout affirme, c'est un des gros problèmes de l'ambiance culturelle moderne depuis une bonne cinquantaine d'années, c'est qu'on vit dans une ambiance où l'existence même de l'esprit semble problématique, alors que, ne serait-ce que pour affirmer ça, il faut faire usage de l'esprit, mais les élites occidentales ont eu tendance à évacuer l'esprit, ou à le repousser dans un domaine complètement insaisissable, et donc sous différentes formes, on baigne dans une ambiance matérialiste, vous voyez. Je me souviens par exemple quand j'ai quitté j'étais assistant, enfin dans une assistance c'est un bien grand mot, dans une unité d'informatique. Enfin, ce n'était pas l'informatique que vous faites aujourd'hui, vous êtes très fort. Nous, on n'était pas très fort dans les années 70. Enfin, moi, j'enseignais les maths surtout, donc ça pouvait aller pour moi. Et alors, quand je suis parti dans la vie religieuse, j'ai été salué le directeur, qui était un bon polytechnicien, un catho. Catho de gauche, peut-être, mais enfin, catho quand même. Et alors, Yvan, il était un peu éteint, il dit, mais vous changez de voie, tout. J'ai dit, oui, mais enfin, bon, je continue à approfondir le réel. Je vais dans la vie religieuse, je vais étudier la réalité, quoi. À ce moment-là, je l'étudiais avec la science, je vais l'étudier avec la philo, la théologie. Il me dit, ah non, ben, le catholicisme n'a rien à voir avec l'intelligence, il me dit ça en gros. Et il me dit, au ciel, il n'y a pas d'intelligence. Alors, j'étais tellement, je n'avais pas la formation pour lui répondre, mais maintenant, je crois que je pourrais lui répondre. Ça, c'est un peu tard, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais c'était un bon gars, et c'était le gars, il pensait que l'intelligence, c'était un truc, peut-être l'intelligence artificielle, c'est un truc fabriqué par des machines, enfin, ce n'était pas quelque chose de spirituel. Bon. Alors, on est dans une ambiance comme ça. Alors, je vous ai mis une citation d'un grand génie français, génie scientifique et génie philosophique, théologique aussi, avec quelques réserves, qui s'appelle Blaise Pascal. Et donc, je vous ai mis un passage sur l'immortalité de l'âme, où je pense qu'il faut beaucoup utiliser ce passage pour les gens qui autour de vous cherchent. Mais je crois que le problème de l'apostolat aujourd'hui, c'est de chercher les gens qui cherchent. Parce que ceux qui ne cherchent pas, ben évidemment, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Il y a quand même des gens qui cherchent. Et il me semble que ce passage de Pascal, qui est numéro 194 dans la classification la plus reçue des pensées, donc qui s'appelle Braunschweig, est un passage qui peut vraiment faire réfléchir. Alors, je ne suis pas très fort en informatique, mais j'ai quand même réussi à le sortir d'Internet. Enfin, je ne l'ai pas trouvé dans une édition moderne, qui fait que c'est du vieux français. Mais si Charles-Henri, enfin du vieux français, vous allez comprendre, c'est du français 1770, donc... Ce passage un peu plus in extenso, si Charles-Henri est d'accord, on l'enverra avec le routage du prochain fichier, parce que c'est un très beau passage qui est dans l'édition disponible par les philanthropes qui l'ont mis en ligne, parce qu'ailleurs c'est protégé par des horribles éditeurs qui veulent gagner des sous. Donc c'est l'ouverture, enfin non, en fait c'est de l'édition de 1770, contre l'indifférence des athées. Et alors l'argument de Pascal, hein, disons, l'introduction de Pascal, qui était un très grand débatteur, Pascal s'était fait un nom, en remportant des victoires dans des débats scientifiques et philosophiques contre des gens un peu croutonneux, un peu arriérés sur la question du vide et d'autres choses comme ça. Et on s'est rendu compte que c'était un débatteur formidable. Et ensuite, après sa conversion, il a mis sa capacité de débat au service de la vérité catholique. Et en particulier, pour convaincre les libertins et les indifférents, qui aujourd'hui sont légions sous une forme moderne, le libertinage moderne est un peu plus vulgaire que celui du XVIIIe siècle, mais il est plus généralisé. Parce qu'au XVIIIe siècle, il fallait une certaine classe sociale pour se permettre d'être libertin. Quand on travaillait 10 heures par jour au champ ou dans les manufactures, on n'avait pas trop le temps et on allait à la messe et on était en gros catholique. Mais dans la moyenne et haute société, c'était une vague d'athéisme, enfin au moins d'un agnostique. Et alors, il s'est attaqué à ça violemment, enfin, avec beaucoup de punch, mais il n'a pas fini son apologétique, malheureusement. On a des fragments remarquables qui sont des chefs-d'œuvre, hein, des pensées de Pascal. Alors, l'idée, vous lirez dans le métro, enfin, ou demain pour le mercredi décembre, ça vous fera une bonne ouverture de carême, le paragraphe que je vous ai mis là. Et là, Pascal montre qu'il est invraisemblable qu'on ne s'occupe pas de ce que l'âme devient après la mort. Parce que c'est vrai, quand vous réfléchissez, disons simplement à la fin ici, hein, il ne faut pas avoir l'âme forte élevée pour comprendre qu'il n'y a point ici de satisfaction véritable et solide. C'est-à-dire que tout homme se rend compte que dans le monde, il y a beaucoup de souffrance. Hein. Un homme de 40 ans, c'est-à-dire de 45, disons. C'est un gars qui se rend compte qu'on ne peut pas être heureux ici-bas, mais qui n'a qu'une idée, c'est que son fils le soit. C'est un peu vache, mais il y a un peu de ça, quoi. Tous nos plaisirs ne sont que vanité, enfin, pas complètement, mais ils sont frappés de vanité aussi, que nos maux sont infinis, quand on en a rien, il y a un autre qui se présente, tous les supérieurs, les mères familles savent ça, et qu'enfin, la mort, qui nous menace à chaque instant, doit infailliblement nous mettre dans l'horrible nécessité d'être éternellement ou anéantis ou malheureux. Voilà. Et après, alors c'est ça que vous recevrez si vous êtes sage au mois de mars, et si le truc de Charles-Henri fonctionne, mais comme il est fort en informatique, ça va fonctionner, dans une édition, une formule un peu différente, il dit, n'est-ce pas, que, en effet, l'agnostique ou l'indifférent est un gars qui dit je sais pas. Je sais pas, c'est-à-dire je doute que l'âme soit immortelle. Donc ce gars-là, il a deux possibilités, ou bien c'est le matérialiste et il tombe dans le néant, ce qui n'est pas très marrant, ou bien il a tort et il va en enfer, parce qu'un gars qui ne s'occupe pas de chercher la vérité sur l'âme, bah, de tout dans la perspective de Pascal, d'une époque un peu exigeante, et bah, il n'a pas beaucoup de chance de se sauver. Donc un gars pareil, alors c'est contre lui que Pascal argumente en disant mais c'est incroyable qu'il y ait des gens comme ça, et surtout qu'ils soient contents de leur état, quoi. Alors je vous donne un petit passage ailleurs de, par rapport à ce que j'ai cité ici. Donc il fait une grande différence entre ceux qui vont chercher et ceux qui ne vont pas chercher. Ça c'est capital. Vous voyez, moi j'ai maintenant bientôt 30 ans de sacerdoce, et je crois, ou je les ai déjà, que c'est très important. Alors on ne peut pas nous faire le discernement, mais dans le jugement interne, au jugement qu'on peut imaginer pour les gens, celui qui cherche et qui ne trouve pas est malheureux, mais c'est pas de sa faute, il cherche. Mais celui qui est dans le doute et qui ne cherche pas, ben il est cinglé. Et beaucoup de gens sont cinglés. Parce que c'est quand même aberrant, alors que pour les affaires normales, on dépense un temps absolument fou, des efforts, de l'énergie pour gagner une course, pour réussir sa profession, pour, et même parfois pour éduquer ses enfants, c'est certain. On dépense du temps pour des choses comme ça, mais qui sont quand même beaucoup moins importantes, de savoir si l'âme est éternelle ou pas. Et alors, dans le libertinage et le scepticisme de l'époque et d'aujourd'hui, ça consiste à dire « je sais pas, et j'ai raison, vous êtes un con, enfin, moi, un bœuf, quoi. Ça dépend si vous êtes dans un salon du 7e ou dans une troupe de routiers, mais vous êtes un bœuf parce que vous ne cherchez pas, hein, et c'est du meilleur ton de ne pas chercher, on ne sait pas, on verra bien, personne n'en est revenu, est-ce qu'on reprendrait du saumon avec ce collier, etc. Bon. Et voilà, et ça, le libertinage mondain, quelquefois avec arrière-fond pseudo-philosophique, est extrêmement répandu. Et alors voilà, il fait tenir à un de ces libertins le discours suivant. Je ne sais qui m'a mis au monde, ni ce que c'est que le monde, ni que moi-même. Je suis dans une ignorance terrible de toutes choses. Je ne sais ce que mon corps, que mon sens, que mon âme, etc. Ça continue comme ça. Comme je ne sais d'où je viens, aussi je ne sais où je vais. Je sais seulement qu'en sortant de ce monde, je tombe pour jamais ou dans le néant, ou dans les mains d'un Dieu irrité, sans savoir à laquelle de ces deux conditions je dois être éternellement en partage. Alors voilà mon état plein de misère, de faiblesse, d'obscurité. Bon, le libertin, voilà son discours. Et il en conclut ceci. Et de tout cela, je conclus que je dois donc passer tous les jours de ma vie sans songer à ce qui me doit arriver. Et que je n'ai qu'à suivre mes inclinations, comme font malheureusement beaucoup d'hommes, sans réflexion et sans inquiétude, en faisant tout ce qu'il faut pour tomber dans le malheur éternel, au cas que ce qu'on me dit soit véritable. Voilà, il y a tout un passage, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ce passage qui est le début dans la première édition qui a été publiée après sa mort, contre l'indifférence des athées, et que vous recevrez en prime et sans supplément de prix, par rapport à la quête finale de tout à l'heure. Voilà. Donc voilà l'ouverture. Hein. Est-ce que l'âme est éternelle ou pas? Alors depuis les origines, il y a une première induction, si vous voulez, qui n'est pas une preuve, mais qui est quand même doit amener à réfléchir. Il y a le sentiment religieux des hommes de toute culture et de toutes sortes, sauf une toute petite frange de modernes qui représente quelques petits millions de personnes sur des dizaines ou des centaines de milliards d'hommes de tous les temps. Eh bien, les hommes ensevelissent rituellement. C'est le seul animal qui ensevelisse rituellement ses morts. Rituellement. Donc c'est quand même, la plupart des gens pensent qu'il y a quelque chose qui se passe après. Et c'est que le sentiment commun, disons, des peuples, un peu obscurci, mais quand même, je disais récemment, il y a un ami qui nous a envoyé des photos du Népal. Enfin, un grand photographe, absolument, c'est d'une beauté, mais ça vous évanouit, quoi. Et on voit des photos des types qui sont en train de lire le livre des morts. Et il prie parce qu'entre la mort et la réincarnation, il y a 49 jours. Donc il prie, voyez, mais bon, c'est faux, mais c'est beau de voir qu'ils ont un sentiment qu'il faut accompagner les âmes des mourants, qui ne sont pas dans le néant. Bon. Et alors, donc, voilà, première approche. Mais après, il y a la raison qui intervient, et l'indestructibilité, je préfère l'appeler comme ça, que l'immortalité, parce que la mort va quand même subir, l'âme va quand même subir la mort. Elle va en réchapper à la différence du corps, mais elle va passer au travers. Donc c'est quand même un événement, on ne sera plus tout à fait les mêmes, on se sentira un peu à poil après, hein, je vous préviens tout de suite. C'est Saint Paul qui emploie le mot, donc je peux y aller sans me faire taxer de libertinage par les sœurs de Pont-Québec. Qui ne sont pas là pour m'espionner ce soir. Non, mais elles m'avaient repris à juste titre parce que j'ai trop de gros mots. Bon. Alors donc, il y a quand même l'âme, bon, elle va durer, mais elle va quand même le sentir passer. Quoi, hein. Mais alors, elle est indestructible. Voilà. Et alors, on peut en droit l'établir par la raison. Alors, je vais vous faire très rapidement la démonstration. Là, en relisant les textes où saint Thomas l'a fait, j'ai été frappé de sa profondeur. Mais c'est vrai que, en fait, du fait des passions, c'est ce que dit Pie XII dans une très belle encyclique, là, encyclique qui a condamné la résurgence du modernisme en 51, Humani Generis, il dit du fait de l'impulsion des passions et des troubles consécutifs au péché originel, il y a des vérités qui sont accessibles à la raison, mais auxquelles les hommes n'arrivent pas, comme l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme, la loi naturelle. Ils n'y arrivent pas tous, ils n'y arrivent pas facilement, ils n'y arrivent pas sans y mêler des erreurs, et ils n'y arrivent pas avec une pleine certitude. Et donc, pour qu'ils aient tout ça, que tout le monde y arrive, que tout le monde y arrive vite parce que ça conditionne toute la vie à partir de l'âge de raison, que tout le monde y arrive sans mêler des erreurs comme l'exposition des enfants qu'admettait Aristote, ou l'esclavage, etc., comme faisaient même les plus grands esprits de l'Antiquité, et que tout le monde y arrive avec une pleine certitude et pas seulement le beau risque d'un Platon, eh bien Dieu les révèle. C'est ce qu'on appelle des vérités qui sont de soi naturelles, mais Dieu les révèle comme le décalogue pour faciliter le chemin de l'humanité. Oui. Et alors là, c'est une vérité que la raison veut l'établir, mais comme il y a un tel enjeu, oui, c'est pas comme le théorème de Pythagore, hein. Sauf si vous avez une connexion qui flanche là-haut, que vous n'avez pas la bosse des maths ou que vous êtes fâché contre votre prof, que vous voulez l'embêter, ou etc. Le théorème de Pythagore, si on vous fait la démonstration, ben vous voyez la conclusion et vous y adhérez, point barre. Tandis que l'existence de Dieu ou l'immortalité de l'âme, là, ça me chatouille quelque part. Hein. C'est comme l'existence de Jules César ou de Jésus-Christ, ça fait quand même une différence. Enfin, je prends l'exemple au hasard. Mais, enfin, c'est quand même vrai que si Jésus-Christ a existé, qu'il a fait ce qu'on a dit, ça change plus ma vie, plutôt de savoir si Louis XVII est mort au temple ou pas. Enfin, même pour les survivantistes qui sont parmi vous cachés au fond là. Je sais pas, pour la gauche. Bon, enfin voilà, donc il y a la passion. Alors de fait, Dieu l'a révélé. Voilà, hein. Et c'est dans la Bible, donc tous les passages vous les trouverez facilement. L'immortalité de l'âme qui était révélée, peut-être d'une façon un peu obscure au début, mais après de façon de plus en plus évidente, et ensuite complètement achevée par Jésus-Christ et par saint Paul. Mais donc, j'ai mis les références ici qui permettent de se reporter au texte où on s'aperçoit bon, que Dieu a dû le révéler pour que tout le monde le reçoive, si vous voulez, par voie d'enseignement, avec une certitude paisible. Sans y mêler d'erreurs, c'est très important. C'est comme la dignité de l'homme. Si on tombe dans des erreurs sur la dignité de l'homme, on tue les hommes. Hein? Parce qu'on dit, il y a des hommes qui ne sont plus des hommes. Vous voyez, c'est ce que dit Dostoïevski dans un de ses bouquins. Il dit, l'amour de l'humanité, quand il n'y a pas la foi en Dieu, ça se termine par des massacres. Et il écrivait ça après la Révolution française, donc il avait un exemple, mais des années avant les grands massacres des totalitaristes du XXe, spécialement... le marxiste-léninisme, le stalinisme et puis le nazisme. Donc c'est vrai que le soi-disant amour pour régénérer l'humanité, on tue les gens. C'est comme ça, c'est incroyable, mais c'est ça. Ça montre vraiment que les hommes sont un peu ch'tards. Ça prouve qu'il y a peut-être, enfin ça prouve, c'est analyse qui a un péché à l'origine de tout ça, comme je l'ai dit la dernière fois. Et pour Pascal, il dit la déchéance de l'humanité, justement, est prouvée de façon maximale par l'impie qui ne cherche pas la vérité. Il y a un gars qui va mourir, qui ne cherche pas ce qu'il y a après, pour Pascal, il est fou. Et il dit ça prouve, et ce gars-là prouve une des vérités fondamentales du christianisme qui est le péché originel. C'est un peu vache comme raisonnement, mais je trouve que c'est quand même assez bien ciblé. Parce qu'il devait quand même pas être tellement commode dans une discussion. Il avait oublié d'être bête comme vous le savez. Bon. Alors, donc, pour vous dire, pour vous consoler si vous avez du mal dans les quelques mots que je vais vous dire, sachez qu'Aristote et Platon, qui avaient un QI légèrement supérieur au mien, le vôtre, eux aussi ont eu des doutes. Platon, en particulier, on présente comme un spiritualiste, etc. Platon, dans le Phédon, c'est cité par Ratzinger dans le livre que j'ai mis en référence, dit au fond, il présente un peu ça dans un mythe. Et il varie des mythes qui se traduisent par une certaine immortalité de l'âme. Et il dit au fond, c'est un beau risque à courir. Et il faut se le répéter comme des mots magiques qui vont nous enchanter, vous voyez. Comme pour s'en persuader. Comme s'il n'en était pas. Et au fond, ce que dit très bien Ratzinger, et je crois que c'est une vérité d'histoire, on ne s'imagine pas à quel point. Les élites hellènes, enfin, et romaines, donc au moment où le christianisme est arrivé, étaient dans la désespérance. Actuellement, au réfectoire, on est en train de lire un bouquin sur l'Empire romain à son apogée. Et je suis frappé des similitudes avec certains éléments de la modernité. Et il n'était pas gagné par le christianisme encore, et on s'aperçoit que le verre de la désespérance était vraiment. Quoi, c'était, en fait, il y avait les religions orientales qui ont apporté une certaine. Lumière, les mystères, etc. N'était pas du tout la pensée philosophique grecque qui a introduit l'idée de l'immortalité de l'âme, contrairement à ce que tous les progressistes et modernistes répètent depuis 60 ans à 100 ans. À tel point que ça a des conséquences dans la liturgie, puisque les réformateurs liturgiques qui ont retouché nos livres ont supprimé partout la mention de l'âme, sauf à un endroit où ils l'ont oublié. C'est quand même embêtant en disant c'est une importation gréco-philosophico-hellénistique. C'est pas du christianisme, c'est pas de la Bible. Et Ratzinger, dans le livre que je vous cite, a démoli ça, déjà en 77, de façon absolument magistrale, en disant c'est une imagination de théologien sans rapport avec la réalité. Parce qu'on voit bien que, même pour Platon, c'était. Bon, il s'en doutait, et pour Aristote, c'était encore plus flou. Saint Thomas a pensé qu'Aristote soutenait l'immortalité de l'âme personnelle, mais beaucoup d'autres commentateurs, Averroès ou d'autres commentateurs arabes ou juifs, ont pensé que non. Donc vous voyez, c'est quelque chose de débattu. Aristote pensait bien qu'il y avait un esprit, bien entendu, puisqu'il démontre l'existence de Dieu et dit que l'esprit de l'homme est un esprit. Mais on se demande s'il pensait que l'esprit, après la mort, était commun à tout le monde. C'est quelque chose de très curieux, mais c'est comme ça. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'absolument évident. Mais cependant, on peut y arriver avec une démarche de la raison, et je vais vous en donner la grande ligne. L'âme est indestructible, l'âme humaine est indestructible parce que, dans chaque réalité, l'homme est une réalité sensible. Hein. Et la mort, c'est vraiment cette catastrophe-là, c'est dans son essence d'être sensible, c'est qu'il sort du réseau des relations humaines, du réseau de la société, sensiblement, on dit, il n'est plus, il a disparu. Et donc sa nature est blessée, sa nature est... il a vu sa nature normale plénière. Hein. Mais cependant, ce n'est pas une nature sensible quelconque. Ce n'est pas un caillou inanimé, ce n'est pas une plante, ce n'est pas un animal, tout simplement. C'est un animal, mais ce n'est pas simplement un animal. Dans tous ces êtres-là, vous avez une certaine, ce qu'on appelle, qu'Aristote appelle la forme, c'est-à-dire un certain principe d'unité, une certaine chose qui fait que les choses ont une réalité, une consistance, et qui leur donne leur propriété. Donc vous avez des corps physiques, de l'eau, de l'hydrogène, etc. Ils ont en eux une certaine densité que Dieu a mis, évidemment. Enfin, on la constate, les savants la constatent, qui fait qu'ils sont toujours ce qu'ils sont et qu'ils font toujours ce qu'ils ont à faire. Vous voyez, quand on mettait de l'eau et de l'hydrogène dans certaines proportions, ça fait de l'hydrogène et de l'oxygène, ça fait de l'eau. Bon. Et donc, vous voyez, il y a quelque chose, mais qui est complètement immanent. Il y a quelque chose que notre intelligence arrive à connaître, mais qui est complètement dans la matière, vous voyez. Et à tel point qu'une fois que l'hydrogène s'est transformé en eau, il n'y a plus du tout, il n'y a plus rien de l'hydrogène. Ce qu'on appelle la matière, le sous-jacent qui est là-dessous, ce qui fait que toutes les choses de l'univers communient dans une certaine sensibilité, une certaine capacité de mouvement, d'énergie, etc. Tout ça, eh bien, une fois que vous êtes passé, par exemple, de l'hydrogène à l'eau, ben, il n'y a plus d'hydrogène. Ça a complètement disparu. De même pour la plante. La plante a un principe d'unité plus fort, puisqu'elle arrive à faire des choses que les inanimés ne peuvent pas faire. Elle arrive à pousser vers le haut, enfin, dans les arbres, c'est magnifique, il y a des poésies de Rilke qui disent, mais il y a quelque chose qui pense là-dedans dans l'arbre, vous voyez, l'arbre, surtout quand vous voyez des arbres qui font des dizaines de mètres de haut, c'est impressionnant, il arrive à sortir ça de la terre, et il tire des tonnes de bois et d'eau à des dizaines de mètres, et il fait ça, c'est programmé, donc on voit bien qu'il y a cette forme est plus puissante qu'une simple forme, disons, purement physique, hein. Il semble bien qu'il y a un saut qualitatif entre la matière inanimée et la matière vivante. Alors ensuite, les animaux sont encore plus fortifs, ils sont encore plus immanents parce qu'ils peuvent faire encore plus de choses, se déplacer, se reproduire et surtout sentir. L'animal peut être en communication avec le monde, devenir les choses sensiblement. Vous pouvez prendre une feuille et vous avez des places formidables là-bas. Et puis même là. Allez-y, hein, c'est très dommage que ce soit. Donc vous voyez, l'animal, il a... Alors, l'animal, il a cette forme qui fait tenir la matière en lui dans son unité, est extrêmement forte, extrêmement performante, mais quand même, quand l'animal est mort, il est mort. Hein. Vous ne trouverez pas Médor au ciel, je vous préviens tout de suite. Hein. Il faut vous faire de la peine, parce que je sais que plus vous connaissez les hommes, plus vous aimez les bêtes, hein, mais quand même, enfin, vous serez comme ça quand vous aurez 75 ans et que vous aurez beaucoup souffert. Mais quand même, il ne sera pas au ciel, et même les chevaux, enfin, il y aura peut-être des chevaux, mais pas celui que vous avez monté ici-bas. Hein. Je suis désolé pour les cavaliers, c'est horrible ce que je dis, mais... Bon, pourquoi? Parce que leur principe d'unité est complètement en connexion avec la matière, et si vous voulez, ils dynamisent la matière dans des propriétés incroyables. Et c'est la physique moderne nous aide beaucoup pour ça, parce qu'on s'aperçoit que finalement, la matière est capable de surpasser justement ces différents degrés de forme qui lui donne son unité, l'inanimé, la plante, le vivant, de plus en plus, mais quand même c'est des choses qui sont complètement dedans, qui dépendent intrinsèquement de la matière. Un animal, ça dépend intrinsèquement de ses éléments corporels, et donc ultimement des protons, des neutrons, etc. qui le constituent, il est entièrement là-dedans. Quoiqu'il y a quelque chose de plus fort que cette simple aspect physique, pendant un certain temps, mais une fois que c'est corrompu, comme on dit en langage philosophique, là ça a complètement ça a disparu. Mais pour l'homme, il n'en va pas de la même façon. Pourquoi? Parce que l'homme est capable d'opération. Vous voyez, l'homme a une main infinie. L'homme a une main spirituelle, infinie, qui s'appelle l'intelligence. Et Saint-Augustin était un grand admirateur de l'intelligence. Je crois qu'un des signes de la barbarie moderne, c'est le mépris de l'intellect. Et qui gagne aussi les catho-fidéistes, par l'intermédiaire de l'influence anti-intellectuelle, anti-thomiste, qu'il y a un peu dans pas mal de milieux. Hein, et tant que l'intelligence, l'orgueilleux, machin, ça. Ça, c'est des conneries, excusez-moi. Hein. La seule noblesse de l'homme, c'est l'intelligence. L'univers peut l'écraser, mais lui, il sait que l'univers l'écrase, l'univers ne le sait pas. Même si un big crunch, moi, j'aurais calculé. Je veux dire, le gars qui est écrasé par le big crunch après. Mais c'est une supériorité. Vous avez des passages absolument magnifiques dans les pensées. Donc, il a une main spirituelle qui fait qu'il peut connaître toutes les substances physiques. Il peut les connaître plus ou moins avec leurs propriétés. En fait, on connaît à fond que peu de choses, mais enfin quand même, de mieux en mieux, on connaît. Donc, et il peut, s'il avait en lui, si vous voulez, et il arrive donc à saisir ces choses-là, et à les saisir telles qu'elles sont en elles-mêmes, indépendamment des conditions un peu concrètes de réalisation, il arrive à penser l'animal, à penser le cheval, à penser ceci, cela, indépendamment de la réalisation de tel ou tel cheval. En lui, il arrive à voir spirituellement ce que les choses sont physiquement en dehors. Donc, comme il a en lui quelque chose qui dépend absolument pas de la matière, c'est qu'il a une main immatérielle pour saisir ça et le mettre dans sa bourse. Aristote dit quelque part, l'âme humaine, est d'une certaine façon toute chose. Et c'est la seule réalité qui soit tout. Non pas tout en réellement, c'est pas dans ma tête, Alpha Beltégueuse ou le machin, ou Mercure, bon, évidemment. Mais je peux penser à Mercure et je peux même calculer la déviation du soleil, du rayon de soleil quand il passe à côté de Mercure. Ben allez-y, faites ça à un babouin, entraînez-le bien, hein. Ouais, votre ordinateur peut le faire, mais c'est parce que vous l'aurez programmé, bon. Mais vous serez derrière l'ordinateur. Mais donc ça, c'est quand même chose d'un peu particulier, vous voyez. On démontre en fait la spiritualité de l'âme humaine en disant il y a une main immatérielle, et comment je sais que cette main est immatérielle, qu'on appelle l'intellect, c'est qu'elle saisit des objets immatériels, et elle ne dépend pas du corps dans cette opération-là. Elle en dépend d'une façon extérieure, comme un organe, comme un instrument. Le gars qui me dirait, ce qui a peint le plafond de la Sixtine, c'est le pinceau de Michel-Ange, ben, je dirais oui, mais attends, réfléchis un peu. Le pinceau tout seul, tu crois que même avec un ordinateur derrière, il aurait fait ça? Alors s'il est complètement con, il va me dire oui, bon d'accord, alors là, tu y allais, reprends un peu de machin, et puis bon, on va parler d'autre chose, comment ça, ben, tes enfants et tout, gna gna, on passe à autre chose. Mais le gars qui réfléchit, il sait bien que c'est pas le pinceau tout seul qui peint. Le pinceau est vraiment un instrument, c'est un génie. Quand vous voyez un tableau de Rembrandt, ben, votre petit-fils qui est en 7e, il fait des tableaux magnifiques évidemment, enfin bon, même si c'est un peu impressionniste, également c'est vraiment impressionniste. Bon. Mais même en se refilant beaucoup, vous vous dites quand même, attends, bon, c'est un petit Rembrandt, mais enfin il a encore du progrès à faire. Hein. Il n'a pas de génie, quoi. Le génie c'est un truc immatériel. Pour être matérialiste, il faut penser qu'il n'y a aucun génie. C'est pour ça que les matérialistes n'ont pas beaucoup le sens de l'art. Mais... C'est rare qu'un artiste soit complètement matérialiste. C'est rare. Parce qu'il y a quand même... Hein, je crois que je vous ai cité la dernière fois la phrase de Claudel, donc si les choses ne nous parlaient si bien de leur auteur, enfin du créateur, dit en substance Claudel, hein, eh bien nous serions en paix avec la rose. Et les choses seraient sans question pour nous, et nous serions en paix avec la rose. Mais on n'est pas en paix avec la rose. Si vous êtes en paix avec la rose, il y a un problème. Enfin, un léger problème. Allez voir tout ça votre psy tout de suite, mais... La rose va mourir, c'est quand même insupportable qu'une chose belle disparaisse. Bon, vous voyez ? Donc l'artiste, il saisit ça. Pourquoi il saisit le génie du créateur dans la rose ? L'artiste est celui qui voit ce que nous ne voyons pas, ou qui l'exprime par la musique, ou par... Bon. Donc tout ça, il utilise évidemment les notes, le clavier, le clavecin, etc. Mais il l'utilise comme un instrument. Vous mettez les mêmes types avec les mêmes ordinateurs, il y en a un qui vous sort E égale MC2 au bout d'un certain temps, et puis l'autre, bon, ben, il fait des bugs, et puis c'est nul, quoi. Mais ben, pourquoi il a le même matériel, quoi, il a le même matos, quoi. C'est parce qu'il n'y a pas le même génie. Donc vous voyez, en fait, c'est ça la preuve de la spiritualité de l'âme. C'est qu'on produit des effets qui dépassent totalement la matière. Et donc, et on le prouve justement parce qu'on arrive à ces objets, les idées, l'universel, le fait qu'on saisit les choses indépendamment du temps. Alors que l'animal saisit toujours ici et maintenant. Nous, on saisit indépendamment de tous les temps. Ce qui fait que le signe qui est donné par les philosophes, alors c'est un signe, si vous voulez, mais je trouve que c'est un signe très émouvant, de l'immortal, de l'incorruptibilité de l'âme, donc qui est démontré de façon rigoureuse, hein, contrairement à ce que ça s'affirme, même parmi les cathos, par l'inférence que je viens de faire. Mais le signe qui est assez touchant, c'est que l'homme désire durer. Même celui qui se suicide. Il désire durer. C'est l'homme spirituel désire durer. Il ne désire pas durer avec la souffrance qu'il a, avec la vie de chien qu'il mène et tout, d'accord. Mais il désire durer. Il appréhende l'être, vous voyez, indépendamment de toutes ses limitations, il n'appréhende pas l'être investi dans le sensible, ou l'être uniquement le sensible à l'intérieur de l'être, il apprend de l'être indépendamment de quoi que ce soit. Et par cette appréhension, eh bien, il se situe dans la profondeur des choses, non pas en dehors, vous voyez. Moi, j'ai une anecdote aussi là-dessus, je me souviens, j'étais à Beyrouth, et on allait voir un gars qui est spécialiste mondial du monde syrien. J'étais avec un frère qui, lui, faisait l'étude de la philosophie du droit. Alors, le père lui dit, qu'est-ce que vous étudiez, vous? Alors, il dit, moi, je fais de la philosophie du droit. Bon, très bien, très important et tout. Puis, vous, qu'est-ce que vous faites? Alors, je dis, moi, je fais de la métaphysique. Alors, le père, qui avait un certain sens du monde, ah, la métaphysique. Oh, quand on a 42 fièvres, un petit jeu. Pour lui, c'est ça la métaphysique. C'est de mettre... Mais en fait, on doit être un bon métaphysicien, ça n'a pas le sens du contraire. Et en fait, il paraît que ça vient du père Marie-Dominique Philippe qui plaisantait là-dessus. Un métaphysicien, celui qui saisit l'aide quand il est shooté, qu'il a 42 fièvres. Bon, mais c'est difficile, mais c'est quand même une discipline du rêve, hein, la métaphysique. Donc, ça va plus loin dans le rêve. Bon, alors voyez un peu cette démarche de l'intelligence. Et ça montre, vous voyez, que l'homme est quelqu'un de très étrange. Alors Pascal a beaucoup insisté sur sa déchéance, trop. Pascal était quand même à la limite du jansénisme. Il dit les deux grandes vérités du catholicisme, c'est la misère de l'homme sans Dieu et son salut par Jésus-Christ. Alors c'est vrai pour la deuxième. La première, je crois que la vérité centrale du catholicisme, c'est la Trinité, quoi. Et l'incarnation. Mais il a eu raison de dire ça, mais il faut aussi voir la noblesse de l'homme qui est bien soulignée par Aristote, par Platon, par Saint-Augustin, par Denis l'Areopagite. Et alors les pères, les médiévaux disent, voyez, que l'homme est un esprit à la limite de la matière, il est comme l'horizon entre deux mondes. L'horizon, c'est beau parce que c'est là où on saisit un peu les effets de diffraction, etc. Vous voyez, l'homme est l'horizon des esprits purs, enfin de Dieu, des anges, enfin de toute cette cascade d'esprits indépendants de la matière, et puis des formes inférieures comme celles des animaux, qui sont déjà vivantes, qui sont sympathiques. Un animal, c'est très émouvant, quoi. Et parce que déjà, on sent vraiment on sent la vie, quoi, faite par Dieu. Et puis etc. en dessous, mais l'homme il est entre les deux, vous voyez, il a l'éternité au-dessus de lui et le temps en dessous, il est le confin des mondes, et donc il est, si vous voulez, aussi le liturge du monde, parce qu'il est le seul qui peut faire une liturgie, parce qu'il est dans le monde, et il peut faire monter vers l'esprit pur la louange de la matière. Et c'est pour ça que la science est importante, cultiver le monde, dominer-le, etc., c'est important aussi. Il ne faut pas être des gars qui disent, ben moi, du moment que je fais mon salut et tout, je me fous de tout, pas du tout, on a un beau monde et c'est fait par lui, voilà. Alors donc l'âme, vous voyez, cette âme qui va durer, indestructible, elle est incassable. Là, je vous ai mis une citation de Florent Gaborio, je crois un philosophe, là, montrant que, bon, ben, voilà, elle même dénudée, si vous voulez, de son corps, hein, elle ne peut pas se dénuder de l'existence. Elle continue à exister, mais alors justement, et c'est là qu'on rentre dans un passage un peu émouvant. Les âmes, les pauvres âmes, les pauvres morts ont de grandes douleurs, dit Baudelaire dans un magnifique sonnet que je vous réciterai quand on parlera du purgatoire. Les pauvres morts ont de grandes douleurs. Et donc c'est émouvant parce que l'âme séparée, et les anciens l'avaient senti déjà, Homère dans l'Iliade et puis les anciens, Virgile, elle est dans un état de flottement parce qu'elle n'est pas dans la plénitude de la nature humaine. Allez, il y en a à l'entrée. Donc la poste là progresse. Alors, donc, elle n'est pas dans son état normal. Si j'ai mis la citation de Gaborio, bon, elle est, c'est la fin du troisième gros paragraphe, séparable de la matière, l'homme ne l'est pas de l'existence, on continue toujours à exister. Hein. Purgé du corps, l'âme subsiste non plus dans la nature humaine. C'est ça le drame. Vous avez dit, c'est un drame métaphysique. On voit la mort, c'est vraiment un drame. On n'est plus une personne humaine parce qu'on n'a plus la totalité de la nature humaine. Mais avec sa nature propre de forme inaliénable. Et donc, l'âme est sortie de la durée continue du temps matériel. Donc ça, c'est important de dire un mot sur les durées. D'abord parce que c'est beau, et d'abord parce que c'est vrai, ensuite parce que c'est beau, dans l'autre sens, ça dépend de l'ordre de la... La beauté, tu vois, c'est une antenne qui nous émoustille pour aller vers le vrai. Ça accompagne le vrai. Pour moi, c'est un transcendantal. C'est-à-dire que partout où il y a de l'être, il y a une certaine beauté. Bon, c'était un point discuté, mais vous pourrez lire ça dans ma thèse qui va enfin paraître chez Brun. Il paraît qu'ils vont avoir le bon à tirer ce mois-ci. Mais donc voilà. Et donc, alors, il y a des durées. Il y a la durée des corps, la durée des choses temporelles, qui est quelque chose qui est continu. En fait, c'est très frappant de voir que la physique moderne rejoint une intuition fondamentale de la philosophie réaliste, en fait, qui dit matière, dit mouvement. Et dès qu'il y a des mouvements, il y a de la matière. Dès qu'il y a de la matière, il y a du mouvement. Et donc ça bouge tout le temps. C'est impressionnant. Alors on savait que ça bougeait, mais on sait encore plus depuis la physique quantique, etc. Bon. Donc vous avez cette durée qui est une durée continue. Et on vit, nous, dans cette durée continue qui est mesurée par les rotations des astres et puis par les vibrations des électrons, etc. Il y a des moyens plus performants aujourd'hui, des horloges électroniques ou même infra, etc. Bon, mais c'est toujours un mouvement, vous voyez. Le temps, c'est toujours la mesure d'un mouvement. Voilà. Alors vous avez cette durée-là propre à la matière. Alors on sort de cette durée-là. Il n'y a plus la durée continue. Donc vous voyez, quand on dit les années du purgatoire, c'est une façon de parler un peu métaphorique. Et on rentre dans une double durée. Alors il y a un mot un peu barbare, mais qui n'est pas un gros mot, mais pour une fois, l'éviternité. Evum, je mets comme ça parce que Ratzinger parle de l'Evum dans son livre. L'éviternité, c'est une sorte de... qui est le présent des esprits, vous voyez. En fait, on s'aperçoit, déjà, le père Garrigou, dans le livre que j'ai cité, donne des exemples. Il y a des exemples de... quand vous êtes très absorbé par quelque chose, vous rentrez dans le temps de l'esprit. C'est-à-dire que vous êtes très absorbé, et puis, bien... le temps passe et vous n'en rendez pas compte parce que vous avez vécu dans un seul instant spirituel. Vous voyez, on dit que certains saints qui font en raison, je crois quel saint, on lui disait, bon, il fait son action de grâce après la messe, avant le petit déjeuner, et puis on vient le chercher à midi, il était assez 4 heures dans son action de grâce, et on le secoue, il dit, ah oui, c'est déjà l'heure du petit déjeuner. Il était 4 heures en oraison, quoi. Mais il y a aussi Saran Cosinus qui est très vieux, Saran Cosinus, c'était les baisers du temps de maman. C'était avant la guerre, au moins la guerre de 39-45. Et alors c'est un savant qui fait toujours des maths sur un tableau, et puis alors il doit aller à l'opéra, etc. Bon, et les femmes viennent, elles frappent à la porte, etc. Alors il doit partir, lui il n'est pas prêt, puis il est toujours plus plein de craie et tout, parce que les femmes se pomponnent, donc lui il fait des équations au tableau. Et puis alors les femmes, c'est un papier. Donc finalement elles en ont marre, elles partent toutes seules au théâtre. Et puis elles reviennent après la séance, et après avoir souffert, faisant tout le rituel de l'époque, pour s'habiller pour le théâtre. Moi j'ai connu l'époque, il fallait mettre une cravate. Après la Comédie française, donc là c'est encore plus habillé, elles arrivent, c'est le matin, il est 3-4 heures du matin, c'est de l'aube, si vous voulez, l'aurore, il est couvert, il dit, ah mais que les femmes sont donc têtues, vous avez bien dit, je vous rejoindrai au Pont Neuf. Donc il leur avait déjà dit 3 fois, il dit, je vous rejoindrai au Pont Neuf. En fait, il a passé 5 heures à faire des maths. Enfin, il y a un certain nombre de cinglés comme ça, mais il n'y a pas besoin d'être cinglé pour connaître le temps spirituel. Donc si vous épousez un chercheur, ne lui cassez pas les pieds s'il allume à 2 heures du matin. Sinon, vous êtes l'assassin de Mozart, si du moins c'est un bon chercheur. Enfin, ou de Mozart, ou de je sais pas où. Du futur prix Nobel, qui nous manque. Non, mais c'est vrai, soyez pas castigés, les bonnes femmes, hein, pour ça. C'est vrai, c'est votre femme, c'est encore pire. Elles sont têtues, alors là. Mais alors, il faut savoir, hein, il faut le faire, ça, au moment où ça sort. Hein. Mais le temps spirituel, c'est très important. Et c'est pas une blague, hein. C'est vrai que tout le monde a remarqué, quand j'étais petit, ça me frappait beaucoup. Et je me demandais si, quand j'étais grand, j'arriverais à faire l'équation. Et je m'aperçois qu'on ne peut pas mettre l'équation. Tout le monde a fait cette expérience, que quand on. Il y a certains moments, le temps passe très vite. Et donc, il est très lent. Quand on est absorbé dans un instant spirituel, voilà. Donc il y a un perpétuel présent, celui des esprits, qui, par les anges, se regardent eux-mêmes, regardent les idées qu'ils ont dans leur essence, et l'âme séparée, vous voyez, rentre dans cette Evum, elle se voit parfaitement elle-même. Donc elle est dans un état un peu violent, même violent, Saint Thomas le dit, même contre nature, parce qu'elle n'a pas son corps pour aller puiser les images, à partir desquelles elles se pensaient. En fait, on pense toujours à partir des images. Hein. Pour Saint Thomas, en fait, tout le monde est aussi intelligent, radicalement, mais c'est la complexion du corps qui permet à l'intelligence de fonctionner plus ou moins, parce qu'on est plus ou moins habile à supporter le travail de l'intellect qui a besoin d'images, d'imagination combinatoire pour penser rapidement, voilà, etc. Donc c'est assez consolant, ça. Tous les hommes sont égaux dans la lumière spirituelle, si vous voulez, mais la complexion, il dit que pour être philosophe, il faut, alors qu'on dit, on traduit, il faut être gros. Ben non, il faut être mollis carné, et il faut avoir une complexion délicate. Non, si on dit que pour être philosophe, il faut être obèse, c'est un peu embêtant. Quoi. Mais donc, non, mais c'est vrai, et moi je me souviens de mon médecin agnostique, qui est parti malheureusement, mais quand j'étais allé le voir, on discutait toujours de tout ça intéressant, de philo, de biologie, de Dieu, il me disait, ben... Un biologiste qui termine sa vie sans croire en Dieu, c'est vraiment idiot. Il était agnostique. Pourquoi je vous parle de. J'ai pas assez de revenir sur l'idée de mon philosophe. Donc, voilà. Donc, oui, il me disait que les. Parce que lui, il soignait à la fois des intellectuels et des paysans. Il me disait les paysans meurent avant. C'est marrant, ça m'a beaucoup frappé. Je pensais que c'était le contraire, mais ils vivent au plein air, etc. Mais lui, dans sa clientèle, il avait à peu près un bon tiers de gens qui venaient des villes, parce que c'est un gars assez performant. Et puis les autres, c'était le. Bon, une baïonnette basse, quoi. Mayenne, c'est un coin de France. Il y a 250 000 humains et 750 000 bovins. Bon. Mais alors, bon, alors le Mayennais, c'est un gars solide, quoi. Mais c'est pas forcément un gars qui gagne le concours général, quoi. Enfin, il y en a, mais... Et donc, j'ai soigné ces gars-là, et moi, je pensais qu'il allait me dire que les paysans vivaient plus longtemps. Il m'a dit non, ils meurent plus vite. Pas simplement à cause des intempéries. Je crois qu'en fait, l'intellectuel, si vous voulez, c'est vrai qu'il a une complexion, bon, qui est... Bon, qui fait, voilà. Alors donc voilà, mais il y a le perpétuel présent des esprits, vous voyez. Donc c'est impressionnant de penser que, voilà, l'âme se contemple sa spiritualité, son immortalité, sa liberté, et en elle-même, elle fait tout de suite la preuve de Dieu, il n'y a pas besoin d'un gros bouquin, et de faire une thèse, une et 5 ans, elle fait immédiatement la preuve de Dieu, elle voit Dieu en elle, dans un comme un miroir, Dieu auteur du monde. Pas Dieu source de la grâce, pas la Trinité. Mais bon, voilà. Alors ça, c'est les vous. Et puis il y a le temps discontinu. C'est-à-dire qu'elle est dans une double durée, elle est dans cet instant spirituel, si vous voulez, où elle se contemple elle-même surtout, et puis Dieu en elle-même, et elle a le temps discontinu, où elle s'arrête, si vous voulez, à penser à une des idées qu'elle a. Soit des idées qu'elle a eues dans la vie, soit des idées que Dieu lui met, parce qu'elle ne peut plus acquérir de nouvelles idées. Oui. Et donc Dieu lui met des idées, par exemple une maman qui est au purgatoire ou au ciel, eh bien Dieu lui met une information sur un enfant qui a besoin de prière. Dans une idée. Donc, elle a un temps discontinu comme ça. Mais ce sont des temps d'intelligence et d'amour qui, en fait, sont discrets, si vous voulez. Hein, ce qu'on fait un peu de maths, ça se voit un peu ce que c'est. C'est pas comme une ligne continue, mais c'est comme 1, 2, 3. Vous voyez, il n'y a pas de lien entre les deux. Donc, c'est très quelque chose de très surprenant. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop anthropomorphiser l'état de l'âme séparée. Mais c'est important de savoir ça. Voilà. Alors, donc, à partir de ce moment-là, saint Augustin nous dit. « O momentum aquo non est tempus. » Alors là, c'est un peu exhortatoire, j'ai repris dans mon livre. C'est vrai, il y a un moment où il n'y aura plus le temps dans lequel nous vivons. « O momentum aquo non est tempus. » Et de la mort, c'est le premier moment. Il n'y aura plus le temps continu et on sera dans notre éternité, au ciel, au purgatoire ou en enfer. Alors là, je saute un passage parce que ça risquerait d'être trop long. J'ai mis juste un mot, juste avant de passer au jugement particulier. La raison, donc naturelle et théologique, montre l'inanité des doctrines de la métempsychose aux réincarnations. Ça, c'est très 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 à la mode aujourd'hui, ça avait été toujours dans le bagage, si vous voulez, de la pensée extrême orientale, mais ça se comprend à cause de la déviation métaphysique fondamentale de la pensée hindouiste, si vous voulez. Ça se comprend moins pour les occidentaux. Ça se comprend beaucoup moins pour les occidentaux, et à mon avis, c'est encore beaucoup plus pernicieux pour eux. Parce qu'on a eu quelqu'un qui est dans l'ambiance culturelle extrêmement orientale, en fait, très souvent, comme il a un mode de pensée qui n'est pas dans la matrice, si vous voulez, hellène, avec l'importance du principe de contradiction, en fait, finalement, ce que lui appelle le néant, peut-être c'est un nom qu'il donne à Dieu. C'est qu'on pensait beaucoup de savants. Mais l'occidental, excusez-moi, l'occidental, il est dans un autre monde culturel. Donc l'occidental qui parle de la réincarnation, c'est une fuite. Et en fait, c'est complètement impossible, c'est complètement absurde, la réincarnation. Parce que l'âme, vous voyez, l'âme, il ne faut pas concevoir l'âme comme à la façon de Descartes pour l'âme. Pour Descartes, il y a une espèce d'automate assez performant. Si vous voulez, c'est un informaticien matérialiste avant la lettre Descartes. Et puis, il y a une boule dedans que Dieu a mis, bouboule, et c'est l'âme. Mais c'est une union accidentelle, quoi. Et puis, la bouboule dirige là-dedans, quoi. Comme les gens qui font des BD futuristes en disant on va construire des robots qui vont nous détruire, etc. Et c'est exactement cette perspective à laquelle l'âme, c'est pas du tout ça. L'âme, c'est ce qui donne l'être. Et de même que la forme de l'hydrogène, c'est ce qui donne l'être à l'hydrogène, la forme du lapin, c'est ce qui donne la lapinité de ce lapin-là, etc. Ben, l'âme humaine, c'est ce qui construit le corps en lui donnant l'être. Donc, chaque âme, si vous voulez, s'adopter à un certain corps, si vous voulez, parce qu'après, on va appeler le corps une fois que le boulot sera fini. Enfin, ça s'appelle le corps dès le début, mais on voit mieux quand c'est fini. Mais chaque âme, si vous voulez, elle construit son corps. Donc dire, si vous voulez, qu'on se réincarne dans notre corps, ça n'a absolument aucun sens, si vous voulez. À la résurrection, on verra, l'âme reconstruira son corps. Mais l'âme donne son être, si vous voulez, à l'ensemble. Sinon, c'est pas un homme. Sinon, c'est des automates. On a en face de soi des automates. Je suis frappé parce que j'avais lu un bouquin d'un colonel, très jeune, franco-vietnamien, qui est absolument remarquable. On n'a pas suffisamment compris, il s'appelait Le Roi. Et ce gars-là, qui avait réussi à mettre en échec le Viet Minh par une technique tout à fait appropriée, on voit dans ses réflexions philosophiques et son rapport au corps, par exemple, il dit, ben, dans le bouddhisme, vous voyez, les corps peuvent être roulés par les vagues. Et c'est une enveloppe. Vous voyez, le bouquin de Verlaine, par exemple, qui donc ce père religieux, enfin français, qui était a fait tout un passage dans tout. Eh bien, le déclic de sa conversion, ça a été le jour où son gourou, il a dit, il était en Inde, il a dit, mais il y a des gars qui meurent là au bord du chemin, et le gourou a dit, laisse-leur, c'est leur karma. C'est-à-dire, bon, c'est le cycle, si vous voulez, des pénalités de la vie antérieure que vous expiez dans votre vie actuelle. Mais en fait, c'est un cycle de l'absurde, mais poétisé, si vous voulez. Je crois qu'en fait, entre eux, enfin, je ne veux pas être méchant, parce qu'ils sont quand même, à mon avis, je vous ai dit une fois, ce jésuite qui était venu, j'étais en classe préparatoire chez des jésuites, bon, pour l'expiation de mes péchés. Et alors, il y a un jésuite qui est venu, mais là, il était assez intéressant. Il avait une gueule d'Indien, tellement il avait été en Inde. Mais c'était un aristocrate français. Hein. Et alors, il nous expliquait que en Europe, il n'y avait pas assez de dieux, et là-bas, il y en avait trop. J'ai trouvé que c'était génial. Vous voyez, il y a certaines... Moi, j'ai connu le fils d'un type, c'est la retraite du Rosaire, je crois que vous allez la faire, notre fête. Et son père mettait devant sa bouche une moustiquaire. Donc, il ne faut pas manger un moustique qui est vivant. Donc c'est quand même voilà, la religion a un impact sur la vie concrète. Mais vous voyez, c'est un excès de divinité, quoi. Hein? Tandis qu'en Occident, c'est un déficit. Bon. Alors, cette histoire de réincarnation, vous voyez, dire que je me réincarne, c'est vraiment dire que l'homme n'est qu'une baudruche, quoi. Et qu'en fait, il n'y a pas d'homme, quoi. Il y a quelque chose dans l'homme qui va migrer de l'un à l'autre. Et en plus, au point de vue moral, c'est extrêmement décourageant. Parce que ça peut être indéfini. Même dans certains cas, c'est un cycle dont on ne sait pas s'il a une fin. Et en plus, au point de vue moral, ça a été quand même pas très stimulant. On dit, bon, ben, je vais vivre d'une façon leste, vous voyez, comme je suis extrêmement correct. Hein. Et bon, d'accord, j'irai faire un tour dans un cochon après, mais après, je ferai des efforts en tant que cochon, je serai gentil avec ma truie, hein, et donc, ben, je me réincarnerai, je serai Mozart. Vous avez toujours dans les hôpitaux des gars qui pensent qu'ils ont été Napoléon, ou... peut-être pas ici, mais bon, voilà. Mais bon, c'est quelque chose de très décourageant. Mais ça marche beaucoup. Et je crois que ça marche parce que ça permet quand même d'éviter l'absurde du néant en disant, ben, il y a une route secours. Mais en fait, c'est pas une route secours très encourageante, vous voyez. Parce que c'est quand même une pénalité comme... D'abord, ça n'a pas de sens, vous voyez, parce que si vraiment il y a une réincarnation, il y a destruction de l'homme pour mettre un autre homme. C'est absolument impossible. Et puis, il y a une autre doctrine qui est fausse. Alors là, elle est plutôt chez les chrétiens. C'est l'apocatastase ou le millénarisme. Donc, c'est une doctrine qui a été attribuée à Origène. Il semble qu'Origène est quand même bien forcé avec elle. Apocatasta, c'est un mot grec qui veut dire la restitution. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, le démon se convertit et tous les années aussi. Oui. Mais c'est une tentation très forte. C'est une tentation qui n'arrive pas à concevoir la justice de Dieu, ça on en parlera pas mal quand on parlera de l'enfer. Et même Peggy, vous voyez, dit, si quelqu'un rentre pas dedans, dans la cité céleste, je reste dehors. Si tout le monde va pas au ciel, je veux pas y aller. Oui. Alors ça, évidemment, ça n'a aucun fondement dans l'évangile, ni dans la raison théologique, ni même dans la pratique pastorale, malheureusement. Donc il n'y aura pas de conversion, et on va le dire aussi. Pourquoi ? Parce que c'est impossible pour les démons, et moralement impossible aussi pour les damnés. Donc, presque métaphysiquement impossible pour les damnés. Donc il n'y aura pas cette réconciliation. Alors il y a des cathos un peu plus pieux qui disent, bon, il n'y aura peut-être pas ça, mais le Christ viendra, il régnera pendant 1000 ans. Hein? Et le monde, pendant 1000 ans, sera plein de gentils, et ce sera le règne. C'était déjà une idée chez Joachim de Flore, un cistercien que certains voudraient béatifier, j'espère qu'on ne béatifiera pas, du 12e siècle de l'Italie, où il a écrit de très belles choses, mais il a eu une influence épouvantable sur les spirituels franciscains, et il disait il y a eu l'âge du Père, le Saint-Testament, l'âge du Fils, qui est le Nouveau Testament et l'Église, et l'âge de l'Esprit, qui est celui des ordres mendiants. Alors bien que je sois d'un ordre mendiant, je ne marche pas, parce que c'est extrêmement dangereux, un nouvel âge, dans lequel arrive une sorte de spiritualité et le Christ va régner, le monde va être un gigantesque club med, si vous voulez, pieux, quoi, pendant 1000 ans. Et ben c'est, je dirais que c'est une sorte de mauvais judaïsme pseudo-christianisé. Mauvais judaïsme au sens d'un judaïsme qui viserait un messianisme temporel. Non, le Christ ne vient pas pour remplacer l'aspirine ou les démarches humaines ou l'effort politique ou la recherche ou... Vous voyez qu'il y a un humoriste anglais qui disait Dieu n'existe pas et allez donc trouver un plombier le dimanche. Ça, c'est... Donc c'est vrai, ben, si Dieu existait, ben, ça va pas se tomber en blanc, le dimanche c'est très difficile de trouver un plombier. Non mais Dieu vient pas pour que ce soit. Vous voyez, je vous ai raconté aussi l'anecdote des gars qui m'avaient pris en stop, c'est dans le Valais, donc ils avaient l'accent valais, hein, à couper au couteau. C'est des protestants bien sympathiques. Je venais me faire prendre par des cathos qui m'ont engueulé. Les protestants étaient hyper cool. Il dit, ah ben oui, la religion, c'est bien quand on est malade, ça, la religion. Ça, c'est déjà ça deux ou trois fois, mais les nouveaux la connaissent pas. Bah, c'est vrai, c'est bien quand on est malade, mais c'est pas le but premier de la manœuvre. Quoi. Non, mais vous voyez, il y a comme une conception, et même je dirais dans Dreverman et dans un certain nombre de groupes très sympathiques par ailleurs, qui font beaucoup d'efforts, qui sont très méritants, qui direction, qui voit beaucoup plus apostolique que vous ne l'êtes vous, qui pour certains d'entre vous n'est pas difficile, excusez-moi. Et certains groupes ont une conception du Christ médecin. C'est-à-dire que c'est vraiment la christothérapie, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a des aspects vrais, la spiritualité nous aide à en sortir. Mais faire attention à ce que ça ne devienne pas une déviation, vous voyez. C'est un aspect, bon, qui est réel, il faut considérer calmement, c'est pas quand même le cœur du christianisme. Voilà, donc voilà, donc ça c'est pour l'âme est indestructible. Donc on est avec notre âme, vous êtes embarqué, hein, il faut parier, ajoute Pascal, donc on est là-dedans, on est avec notre âme pour une indéfinité d'éternité. Alors on dit pour les siècles, bon, c'est une façon de s'exprimer, hein, c'est les siècles au sens de l'éboum, c'est que notre durée spirituelle sera indéfinie, indéterminée, infinie vers l'avant. On a commencé à exister, mais on ne disparaîtra jamais. Alors ça, il faut faire avec. Hein. Quand on réalise ça la première fois, on n'est pas très content. On n'a pas téléphoné à Dieu pour dire hey, faites-moi comme si, faites-moi un petit gène comme ça, un petit machin, et puis que ma maman soit gentille, etc., et que je trouve la belle au bois dormant, elle fasse charmant, et machin. On n'a pas téléphoné d'abord. Donc il faut admettre qu'il nous est fait sans qu'on ait téléphoné. Pour moi, c'est ça le grand problème métaphysique. Enfin, c'est exprimé de façon un peu extérieure. Mais... Alors maintenant, il y a le jugement particulier. Il y a le jugement particulier qui est assez impressionnant. L'Écriture insiste surtout sur le jugement général dont on parlera la prochaine fois, avec la résurrection, la fin des temps, la parousie. Mais quand même, dans l'Évangile, j'ai mis quelques références. Vous la trouverez aussi dans le catéchisme. Et dans l'usage de la raison, on s'aperçoit qu'en fait, il est normal que quand on est sorti de l'épreuve, eh bien, il y ait tout de suite la récompense ou la punition. Saint Thomas nous dit, il y a raisonnablement aucune raison d'attendre. Et on va voir qu'en fait, il n'y a pas de raison et ça serait même très difficile. Donc, au moment où l'âme se sépare du corps, vous voyez, elle se sépare. Bon. Elle est fixée dans l'état où elle se trouvait quand Dieu a mis fin à sa vie mortelle. Ça, c'est extrêmement important. Après la mort métaphysique, l'âme ne peut plus changer. Je dis mort métaphysique parce qu'il y a certains états de mort apparente ou de mort clinique qui peuvent être d'autant plus longs que la mort, paraît-il, a été violente. Moi, ça m'est arrivé d'arriver, il y a déjà très longtemps, un accident dans le brouillard le matin, dimanche matin, j'allais dire une messe, il y avait une grosse voiture qui avait percuté une petite, j'avais un paysan dans sa deux chevaux, qui était mort. Et je suis arrivé quelques dizaines de minutes après, je l'ai absous sous condition, hein, au cas où il ne serait pas mort métaphysiquement. Donc elle quitte l'état de voie, ce qu'on appelle l'état de voie, c'est l'état où on marche, où on peut changer. Et elle rentre dans l'état de terre. Alors dans l'état de voie, on peut changer. C'est-à-dire, sous l'influence de la grâce, qui est indispensable, on peut se tourner du mal vers le bien. Ou au contraire, par un mauvais usage de la liberté, on peut déserter la grâce et tomber dans le mal. Le Concile de Trente dit, en reprenant saint Augustin, Dieu ne déserte jamais, n'abandonne jamais, si on ne le déserte pas le premier. Deus non deserens nihil deseratur. C'est très très important pour la pastorale ou l'apostolat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire Dieu m'abandonne. C'est moi qui me barre et qui ne veut pas le regarder. Et donc lui, il dit bien, mais il faut que je me tourne comme vers lui. Dieu n'abandonne jamais le premier. Bon. Mais on peut quand même se barrer, grâce à Dieu, si j'ose dire. Il nous donne la force physique de nous barrer. Celui qui fait un meurtre, il tue le gars, sa victime avec la force physique que Dieu lui a donnée. C'est comme un Dieu étrange. Hein. C'est bien comme ça. Dieu est un Dieu caché, nous dit Pascal. C'est pas le Goldorak qui vient et qui met la bonne fin du film. Bon. Alors dans la voie, on peut changer, et puis on peut faire des actes méritoires, c'est-à-dire que si on est en état de grâce, quand on fait le bien, on mérite une récompense. Et si on est en état de grâce, qu'on fait un péché mortel, on perd cet état de grâce, on mérite une peine, on verra quand on parlera de l'enfer. Et puis si on est toujours en état de péché mortel, qu'on rajoute de péché mortel là-dessus, on mérite d'être encore plus puni. Alors méfiez-vous du coup, hein, parce que ça, le démon, il raconte ça facilement. Quand on a fait une grosse bêtise, ben, tu peux en faire 2, 3, 4, parce que perdu pour perdu, c'est pas plus. Attendez, d'abord, le châtiment est beaucoup plus fort. Et ensuite, on se freine la possibilité de revenir, vous voyez. Le gars qui prend l'habitude de tuer, ou de se droguer, ou d'etc., ou de jamais faire d'efforts sur lui, pour en prendre un truc plus éveillé, ben, il peut encore se retourner. Mais plus il tarde, plus c'est difficile. Et on sait remettre que conversion au lendemain est toujours un exercice extrêmement hasardeux. Contre quoi Pascal s'élève. Bon. Mais à l'instant de la mort, c'est fini. On rentre dans l'état de terme, c'est-à-dire que terminus, tout le monde descend. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a un tas de cas en bistouille du type, il y a un tunnel, bon, il y a peut-être un tunnel, on s'en fout, mais ça a été le tunnel dans la vie physique. Il y a un tunnel blanc avec des gens, coucou, expérience après la mort, machin. Je dis pas que tout ça est complètement faux, mais c'est pas la mort métaphysique. Une fois que l'âme est séparée, il n'y a plus de possibilité de changer. Donc là, à l'instant de la mort, on rentre dans l'état de ferme et on ne peut ni changer. Si on était bon, mais si on aimait Dieu, on reste dans l'amour de Dieu. Si on n'aimait pas Dieu, on reste dans le non-amour de Dieu. Et on ne peut pas non plus progresser dans le bien ni progresser dans le mal. Alors, je vous ai mis une belle citation de Pie XII qui s'adresse à des juristes en disant « Dieu seul peut porter ce jugement définitif et il le porte selon l'état de l'âme quand elle comparaît devant lui. » Alors ça doit nous rendre calme pour les jugements qu'on porte sur les gens ici. Hein. Parce que bon, plus vous vieillirez, plus vous apercevrez qu'il y a beaucoup de nos jugements qui sont faux, parce que vous vous rendrez compte que vous avez mal jugé des gens, soit dans le sens positif, soit dans le sens plus habituellement négatif. Après, vous vous rendez compte qu'en fait, ce n'était pas ce que vous aviez cru. Et puis, si vous êtes en situation d'autorité, si vous êtes masseur ou psychothérapeute ou prêtre ou notaire ou que sais-je, vous avez les confidentistes ou les confidences des gens ou infirmières, et bien, vous apercevrez que le malheur des gens, il est grand. C'est ce que disait un prêtre en captivité à Malraux. Que Malraux lui disait, ça fait quoi de confesser? C'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe dans la confession? Alors le prêtre lui a répondu deux choses, et je me souviens d'une d'entre elles. Et non, il me souvient des deux. Il a dit, ce qu'on apprend dans la confession, c'est que, pratiquement, en gros, tous les hommes sont des enfants. C'est qu'il y a un côté un petit peu immature. Il reste toujours une petite immaturité, quoi. Il y a, comme l'on dit, il n'y a pas de grand homme pour s'envoler de champagne. Il y a un côté un peu enfantin, je trouve, et ça dans la confession, on le voit. Bon, alors ça a du bon et du mauvais aussi, bon, ça rend indulgent un peu. Et puis, on ne sait pas à quel point les gens souffrent. C'est magnifique. Donc Malraux, il est resté sur... S'il avait espéré des trucs croustillants, mais, il les a pas eu, mais c'est beaucoup plus profond, et c'est vrai. Moi, je peux vous dire, c'est comme ça. En fait, et souvent, on condamne les gens pour des trucs qui, en fait, qu'on estime être des vices, et qui, en fait, pour des tas de trucs trop compliqués à expliquer. Non, au moins subjectivement, pour certains d'entre eux, ça n'est pas même fait des choses vertueuses. Donc il y a des micmacs qui n'est pas possible et c'est pour ça que la vie est compliquée. C'est que des micmacs, il y en a tout le temps et on fait des tas de jugements. Alors ne jugeons pas avant le temps, nos jugements sont faux et puis ils enfoncent les gens dans leur mal. Et en plus, quand on juge quelqu'un, ça montre que nous-mêmes on est mauvais. Parce que juger les autres, c'est quand même un acte essentiellement familier. Parce que je juge, c'est marrant, vous voyez, il y a ces catégories de péchés où vous avez les bonnes dames pieuses, sont très loquaces sur ces péchés-là. Et elle, ça montre justement qu'elles ont une espèce d'attache malsaine à ce péché, quoi. Pour le péché, enfin, je ne vais pas dire que c'est grave, je fais que j'expliquer que c'est grave. Mais je veux dire, le péché, c'est banal à côté de la vertu, c'est bon, le péché, voilà, c'est pas un truc tellement croustillant, quoi. Je sais pas, moi j'ai beaucoup de mal à lire les romans ou les folleurs, parce que je trouve que c'est toujours creux, enfin, de toute façon, parce que bon, gâtu, viol, machine, bon, il faudrait être tout malin, mais c'est tellement banal, surtout pour un confesseur, vous savez. Évidemment, on cherche des trucs de plus en plus pervers, mais c'est un petit peu dangereux. Hein. Bon, donc Dieu, lui, il voit tout. Donc là, il n'y a pas tellement d'excuses, vous voyez, bien, je prendrai un avocat, ou bien, il y a un avocat qui était exécuté de la Carnage, qui a été béatifié récemment par Benoît XVI, un des martyrs des combats en Espagne pendant les grands combats, là, 36-39. Et alors, il disait au général qui l'exécutait qu'il se proposait d'être son avocat auprès du juge céleste une fois qu'il aurait été exécuté. Mais bon, mais en fait, il n'y a pas, non, on est comparé devant le Christ, c'est voilà. Alors j'ai mis aussi une citation de Saint Paul, qui est un très beau passage, je vous lirai tranquillement pour vos méditations de carême, de la deuxième aux Corinthiens, et de ce passage on déduit qu'en fait, quand on est dans le corps, on est loin du Christ, enfin loin du Christ parce qu'on est dans la foi, on ne voit pas le Christ. Et dès qu'on est hors du corps, bon, moi pour ceux qui sont en état de grâce, eh bien, on va tout de suite être avec le Christ. Moi, pour ceux qui vont au ciel directement, le texte est utilisé pour dire c'est tout de suite, on n'attend pas la fin des temps. On n'est pas mis en réserve dans un monastère supra-céleste caché dans une planète. Non, on est tout de suite, on a la récompense ou le châtiment tout de suite. Et c'est très beau parce qu'il parle du mot d'exil, nous sommes en exil par rapport à vous, nous sommes contents d'y être parce qu'on exerce la foi, mais en fait, on préférait sortir du corps pour être avec vous. Et est-ce que l'idée fondamentale de la mort chrétienne, c'est l'être avec le Christ? Sarah Singer insiste beaucoup là-dessus, dans son livre que je vous recommande peut-être pas forcément, parce que c'est un peu difficile, mais c'est très bien documenté. Et puis, j'ai mis aussi une citation de Saint Jean Chrysostome, que j'ai cité déjà dans mon livre sur les fins dernières, mais que j'ai perfectionné parce que je me suis aperçu que le texte que je vous ai donné est un peu moins percutant que celui-là. J'ai été voir sur l'original. Et alors, en fait, Saint Jean Chrysostome, vous voyez, parle à la cour de Constantinople à l'époque où il y avait encore les jeux du cirque et les combats de gladiateurs. Et donc il dit, oui, les théâtres, etc. Elle dit, quand vous êtes dans le théâtre, bon, ben, vous pouvez jouer votre rôle. Quand vous êtes dans l'arène, vous pouvez combattre. Mais une fois que c'est fini, c'est fini. Vous ne pouvez plus combattre. Soit vous recevez les mépris parce que vous avez perdu, ou la, bon, soit vous recevez la couronne, même si vous êtes couvert de sang, il y a un très beau passage. On décrit l'athlète qui sort couvert de sang, et puis les groupies de l'époque qui se précipitent sur lui parce qu'il y avait des groupies et des groupies. C'était incroyable. Hein. 255 000 places dans le cirque Maxime. 255 000. Et les plus grands théâtres de la Rome antique contenaient, enfin du moins à l'époque du bouquin du Vigon Réceptoire, qui est 39, contenaient plus de gens que les plus grands théâtres modernes. Et ça fournait jusqu'à 25 000 places. Enfin, ils avaient une soif de jeu. Bon, alors donc il prend cet exemple-là. Il dit donc, vous pouvez jouer tant que la pièce se joue, vous pouvez combattre tant que le combat est en cours, mais après c'est fini. Hein. Il y a un très beau passage. Elle vient l'heure où le théâtre de ce monde sera dissous. Et à partir de ce moment, il ne sera plus possible de combattre. Après la fin de cette vie, il ne sera plus possible d'avancer des richesses, donc de gagner des mérites. Ce théâtre évanoui, il ne sera plus possible de mériter des couronnes. Maintenant, c'est le temps de la pénitence, alors ce sera le temps du jugement. En fait, je vous ai mis de la justice dans mon livre, le texte c'est jugement. Criseo, c'est le jugement. C'est le temps du jugement. Et donc ça, mettez-vous bien ça dans ce qui vous sert de cervelle. Parce que c'est vraiment important. Si vous avez retenu que ça ce soir, même si vous trouvez que je suis un peu féodal, et que vous allez vous faire dire le contraire par un vicaire progressiste ou par quelqu'un, c'est juste. Hein. Ouvrez les bouquins, ouvrez c'est l'enseignement absolument fondamental dans l'Église. Et donc, le temps de l'épreuve est fini, donc il n'y a plus possibilité de continuer à changer. Et d'autre part, c'est plus possible. C'est plus convenable du tout, et c'est plus possible même. Parce que c'est l'homme tout entier qui mérite, vous voyez. En fait, c'est l'homme corps et âme qui mène le combat. Donc une fois que l'âme est partie, le corps est parti, se décompose, ben l'âme ne peut pas continuer son petit jeu. Pour elle ne peut pas jouer les prolongations. Il n'y a pas de prolongation, ça ne marche pas. Donc au moment où l'âme séparée se découvre séparée, elle ne peut plus changer son option pour ou contre, j'ai mis la volonté de Dieu. Parce que certains vont mettre pour ou contre Dieu. Dire, ben moi, ben, je ne suis pas contre Dieu, moi. Ben non, ben Dieu, il est... Ben, je vous ai déjà expliqué, Dieu, il est cool, hein, bon, tout le monde est au paradis. Je ne suis pas contre Dieu, donc ça va, je serai sauvé. Attendez, si vous ne pratiquez pas la loi de Dieu que vous connaissez, vous êtes contre la volonté de Dieu. Vous ne me dites pas que vous n'êtes pas contre Dieu, vous êtes contre sa volonté. C'est là-dessus qu'on est jugé. Parce qu'il y a aussi une hérésie, enfin, moi, une semi-hérésie qui s'est beaucoup répandue depuis environ 60 ans, qui consiste à dire, il y a un seul péché, c'est le péché formel de haine de Dieu. Ou des espoirs formels ou les péchés contre le Saint-Esprit. Ça, j'ai vu ça à Tire-Larigot dans des tas de milieux, même pieux ou soi-disant pieux. Eh bien, c'est de la carambistouille, c'est pas vrai. Il y en a des péchés comme ça, des péchés de malice, mais c'est pas l'unique péché. Il y a des péchés de faiblesse, des péchés de passion, etc. Il y a des tas de gens qui sont complètement en dehors de Dieu et qui le savent, qui veulent pas se mettre en règle avec lui, mais qui sont cool. Qui sont pas non-Dieu, ben, c'est bien, c'est des gens qui croient en Dieu. Même Voltaire était pour que son valet croit en Dieu, parce que comme ça, il était bien volé. Donc on n'est pas forcément contre la loi de Dieu. Il y a des francs-maçons qui ont donné l'enseignement primaire à l'Église au XIXe siècle pour que les enfants aient des principes moraux. Vous voyez ? Donc, vous voyez, on meurt. En fait, on a choisi, si vous voulez, soit un bien fini, c'est-à-dire, bon, je vois bien que la loi divine interdit de prendre la femme du voisin ou d'escroquer, etc., ou de tuer, mais quand même, c'est plus fort que moi. Hein. Et donc, je tue, puis alors, attendez, je ne veux pas me confesser quand même. Il faut se mettre à genoux et. Non, non. Et bien là, on est contre la loi de Dieu. Il n'y a pas besoin de faire un péché formel de la vie. Hein. Et il y a, malheureusement, c'est des choses qui existent. Alors on est bloqué là-dedans. Pourquoi ? Parce que les âmes, les bienheureuses, sont impeccables, et voient Dieu, donc elles ne peuvent pas changer leur mouvement libre qui va vers Dieu. Le bienheureux est parfaitement libre, enfin on verra. Mais il n'a plus cet accident de la liberté qui est de pouvoir s'opposer à sa finalité. Nous on peut parce qu'on ne voit pas Dieu. Donc on peut à la limite mettre notre finalité dans autre chose que Dieu. Bon. Et le damné, il est obstiné dans le mal. Alors ça se passe comme ça, si vous voulez. L'homme vit d'une certaine façon. Et il y a un grand passage de l'écriture que j'ai mis là dans l'Ecclésiastique, dans la Bible de Jérusalem, c'est marqué Siracide, la façon moderne de le dire. L'Ecclésiastique, l'arbre tombe, en gros, je traduis un peu d'une autre façon, l'arbre tombe du côté où il penche. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, quand vous prenez une option, ben vous continuez sur l'élan. Alors on peut changer, bien sûr. Mais on peut aussi continuer. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui continuent. Alors donc, vers la fin, le gars qui repousse sa conversion, qui repousse les grâces que Dieu lui donne, ben, il va vers la mort, et puis il arrive de plus en plus faible, et au moment, le dernier acte libre qu'il fait, ben, c'est une impénitence, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il a, il n'appelle pas Dieu au secours, il dit non, hein, voilà, il ne veut pas, ou il ne dit pas non, mais... Vous voyez, autrefois on disait, libérez-nous de la mort subite et improvisée. Et Ratzinger, dans son bouquin, il dit aujourd'hui, on croit que pour beaucoup de gens, c'est plutôt, Seigneur, donnez-nous une mort subite et improvisée, quoi. Qu'on ne souffre pas et qu'on n'y pense pas. Et c'est une vraie catastrophe, surtout qu'avec la conception matérialiste de la mort, on empêche les prêtres d'appeler auprès des mourants, on cache leur mort aux gens et tout. C'est pas très malin, bien sûr, suivant les sujets, il y a des tas de pédagogie, il y a tas de choses. Mais ne vous inquiétez pas, les prêtres connaissent leur boulot, du moins être prêtre. Comme disait Journet, il y avait des médecins qui voulaient l'embêter, le cardinal Journet, il laissait moi faire mon métier, je le connais. Et vous trouvez des paroles aussi, il y a un apostolat de la bonne mort qui est très fort. Moi, je l'ai expérimenté sans être prêtre, vous trouvez d'instinct des paroles qu'il faut, parce que c'est quand même un moment très important. Et les âmes ont besoin de ça. J'ai un de mes copains qui avait été dans un hôpital, appelé par un mourant. La famille autour du lit l'empêche d'approcher du lit. Ça arrive aussi, ça. C'est ce qui est arrivé à Voltaire, hein, je vous signale. Hein. Bon. Et alors, donc, il était bien embêté. Il était venu à l'hôpital. Et puis, une petite maman, mon père, je voudrais me confesser. Et une petite vieille se confesse et très monstrueux, elle meurt pendant la nuit. Donc, il n'était pas venu pour rien, vous voyez. Mais ça montre bien le mystère des élections divines, quoi. Alors, faut pas dire, bah, attendez, je me confesserai quand j'aurai fait bien, quand j'aurai eu 56 maîtresses, que j'aurai eu la plus grosse entreprise du monde, que j'aurai fait toutes mes volontés, et que j'aurai surtout, j'aurai fait aucun effort sur moi. Alors après, je lancerai le chrono, tiens, ah ben c'est vrai, il me reste 2 heures à vivre. Alors j'appelle mon cousin qui est prêtre, j'ai un cousin qui est prêtre. Donc, c'est quand vous prenez le métro, dis, vous connaissez pas mon cousin qui est cistercien à San Francisco, ou, c'est le genre de question que j'ai un peu. J'ai un cousin qui est prêtre, ou j'ai une nièce qui est. Alors, tu m'appelles un prêtre, attendez. C'est que le repentir, vous ne le commandez pas comme ça, c'est une grâce de Dieu. Hein. Donc, c'est dangereux. Alors, donc, l'âme se fixe, si vous voulez, elle a son mouvement comme ça, librement, elle dit, ben, voilà. Et puis, une fois qu'elle se découvre, si vous voulez, elle-même, et là, alors là, ça la bloque dans son choix, elle se découvre dans la transparence de l'esprit séparé, comme aimant Dieu ou ne l'aimant pas. Mais en voyant tout avec toutes les circonstances. Il n'y a plus de discours, j'ai pas été aimé, mon papa m'a donné la cravache quand j'étais petit, j'ai pris une paire de baffes du prof, mon patron m'a pas compris, j'ai pas eu de chance, c'est de la faute à Pascal. Non, non, tout ça, d'accord, mais tout ça sera pris en compte, hein, vous inquiétez pas. Ça me consomme aussi un peu. Les petits, c'est aussi les peaux, les obscurs, les sans grades, on tiendra compte du fait qu'ils n'ont pas eu beaucoup. Mais les mecs qui ont plein de fric, qui ont du temps et tout, et qui l'emploient pour faire du mal, alors eux, attention, l'addition va être salée, quoi. Moi, je crois à la justice, je vais vous dire. Sinon, le monde est vraiment absurde. S'il n'y a pas de jugement, et si c'est kiff-kiff bourricot pour tout le monde, moi, je souhaite qu'il y ait le maximum de gens sauvés. La preuve, mon boulot, c'est ça. Je ne suis pas payé, même. Vous voyez, même pas. Là, si vous pouvez donner à la quête après, je suis mendiant, c'est différent. Mais j'ai pas de salaire. Donc, je m'investis dans le salut des âmes. Mais c'est marrant, les mecs qui s'investissent dans le salut des âmes, ils sont inquiets. Moi, ça me frappe le coup. Et les mecs qui sont là, ouh, tout le monde se sauve, pas de problème, cool, eux, ils font rien. Donc, vous savez que j'en ai sauvé comme ça? Bah, attendez. C'est pas juste. Hein. Donc, voilà, l'âme est fixée dans son choix et elle ne peut plus. Et alors, on dit, oui, mais les damnés, comme ils voient le feu de l'enfer et tout, ils disent, ah bah oui, mais je voudrais changer. Oui, mais ils sont instruits pratiquement. C'est-à-dire qu'ils ont le remords qui les ronge, on verra quand on parlera de l'enfer. Mais ils n'ont pas le repentir qui les sauverait. Ils ont le remords, qui est une sorte d'humiliation, un truc, et ils ont le remords. Ils sont embêtés d'avoir une peine. Mais ils ne veulent pas se convertir, parce que pour se convertir, il faut passer par l'humilité et l'obéissance, et ils n'en veulent pas. Et en fait, c'est malheureusement le cas d'un certain nombre de personnes. Hein. Je vous ai mis ici un petit passage des frères Karamazov. Dostoïevski, donc c'est la deuxième fois que je le cite, c'est pas un père de l'église, et c'est un beau passage. En fait, c'est un discours du Starets Zosim, je crois qu'il s'appelle, qui réfléchit sur ce qu'est l'enfer. Alors on en reparlera, mais là, je vous cite simplement pour un passage. En fait, quand on est dans la vie, on a la possibilité de faire du bien, et surtout d'aimer, librement. Alors voilà le passage dont je vous ai cité une partie. Une fois, dans l'infini de l'espace et du temps, donc ça rejoint un peu les accents pascaliens, hein. Je suis dans un monde infini, les silences éternels des espaces infinis, mes frères. Une fois, dans l'infini de l'espace et du temps, un être spirituel, par son apparition sur la terre, a eu la possibilité de dire « Je suis et j'aime ». Une fois seulement, lui a été accordé, alors ça c'est ce que j'ai cité, un moment d'amour actif et vivant, à cette fin lui a été donnée la vie terrestre, bornée dans le temps. Or, alors écoutez bien, parce que c'est la réalité, cet être heureux a repoussé ce don inestimable, ne l'a ni apprécié, il y en a combien qui sont jamais contents? Jamais. Il y a des gars dans un camp de concentration, ils sont lumineux, et il y en a des gars dans le 16e arrondissement, ils ont une tête d'enfermement. Dans le 7e, enfin, là où ça coûte cher. Ou à Neuilly, voilà. ni appréciée ni aimée, la considérait ironiquement et y est restée insensible. Un tel être ayant quitté la terre voit le sein d'Abraham, donc c'est le mauvais riche qui est en enfer, s'entretient avec lui comme il est dit dans la parabole de Lazare et du mauvais riche. Il contemple le paradis, il peut s'élever jusqu'au Seigneur, mais ce qu'il tourmente précisément, c'est qu'il se présente sans avoir aimé, qu'il entre en contact avec ceux qui ont aimé et dont il a dédaigné l'amour. Car il a une claire vision des choses et il se dit « Maintenant j'ai la connaissance et malgré ma soif d'amour, cet amour sera sans valeur, ne représentera aucun sacrifice car la vie terrestre est terminée et Abraham ne viendra pas apaiser, fût-ce par une goutte d'eau vive. » Vous savez que le riche dans l'enfer dit qu'il envoie, qu'il donne une goutte pour le bout de ma langue. « Car je suis torturé dans cette flamme. » Kutcher in Akfala. Ma soif ardente d'amour spirituel dont je brûle maintenant, après l'avoir dédaigné sur la terre. Donc c'est très beau, c'est la justice, voyez. Donc ils ne sont plus dans une situation, ils ne peuvent plus changer, parce qu'ils ne recevront pas la grâce de Dieu, qui le donne au temps de l'épreuve et pas au temps du terme, et puis parce qu'ils sont bloqués dans leur choix. Vous voyez, l'ange ne se convertit pas. Nous on a du temps parce qu'on peut se tromper, vous voyez. En fait, la possibilité de se convertir est le pendant de notre misère. C'est l'avantage d'être minable. Donc on a des examens de rattrapage, quoi. Pour avoir la moyenne avec l'oral, pour faire partie des 85% d'élus. Sans aucune allusion à des choses existantes. Mais bon, donc voilà. Mais tandis que l'ange, lui, il est balèze. Donc il choisit, il voit toutes les circonstances, il choisit pauvre d'un coup. Ne dites pas que ça n'existe pas, puisqu'il y a des êtres humains qui arrivent à faire ça. Dans son encyclique, qui est très belle, l'encyclique spéciale vie de le pape, qui a un passage donc sur le ciel, l'enfer, le purgatoire, qui est assez beau parce qu'il explique très spirituellement ce purgatoire. Alors il a une vision, à mon avis, un petit peu irénique, à mon avis, de la question du nombre des élus, mais enfin bon, à mon avis, il dit, je crois que c'est une chose qu'on peut respectueusement discuter. Mais il dit quand même, il dit explicitement, il y a des gens, en effet, qui refusent, donc, ça existe, et donc il y a des gens qui sont damnés. Il a repoussé selon une estimable. Donc en gros, on meurt comme on a vécu, selon l'inclination à la fin que l'on a choisie. Évidemment, il y a des grâces de dernière minute qui sont offertes aux pécheurs. Donc j'ai fait de la pub tout à l'heure pour ça. Il y a un apostolat spécifique pour les mourants. Il ne faut jamais désespérer, on doit toujours, jusqu'à la dernière minute, il faut inciter les gens, même ceux qui décrochent, à dire, écoute, garde un lien. Dis un « Je vous salue Marie » tous les soirs avant de t'endormir, ça fera un lien avec Dieu. Dis aux gens, puisque tu ne peux pas prier, demande aux gens de prier pour qu'ils retrouvent la foi. Vous voyez, nous, dans notre ordre, il y a un certain Gilles de Portugal, qui avait fait un pacte avec le démon, ce qui est quand même un petit peu embêtant. Et donc il est devenu un grand savant avec son pacte, il était embêté parce qu'il savait qu'il était damné. Et donc il était embêté et tout, il pleurait, puis la Sainte Vierge lui a apparu, il avait quand même gardé l'habitude de dire son « Je vous salue Marie » de la persévérance. Hein. Il lui a apparu, alors qu'il était erré dans un cimetière, désolé, en proie déjà aux assauts démoniaques qui le représentaient comme damné, parce qu'il avait signé son propre sang, un pacte avec le diable. C'est un schmilblick, hein. Et la Sainte Vierge lui a apparu à déchirer le pacte, parce qu'il avait gardé ses Ave Maria. Et il est bien heureux dans leur Gilles de Portugal. Oui, bon, c'est un petit peu. C'est mignon, quoi. Je faisais pas un dogme de foi, ce que je vous raconte là. Mais c'est des trucs, moi j'ai vu dans ma vie des trucs à peu près comme ça. Donc ça existe. Hein. Mais ça, moi, on ne peut pas en faire une règle générale. C'est ça qui m'énerve, c'est que, vous voyez, certains vous disent, attendez, cool les gars, avant de mourir, tout le monde, il y a un coup, hein, zoom, et tout le monde, illumination, Jésus arrive, coucou,
c'est moi, Jésus de Nazareth avec une voix ténébreuse, enfin, il traduit l'araméen, traduction simultanée, t'es pour moi ou t'es contre moi? Moi, je veux bien qu'il y ait quelques cas comme ça, mais enfin, vous voyez ça dans le bunker de Berlin, juste avant de se mettre de l'essence, Jésus qui vient dire, ah, peut-être qu'il l'a fait, c'est métaphysiquement pas impossible, à Hitler ou à Pol Pot ou Staline ou ses copains là, qui font un beau match dans la monstruosité, ou d'autres qu'on connaît pas, hein, puisqu'il en faut aussi, hein. Mais que je nomme pas pour ne pas délecter vos appétits vindicatifs. Mais donc, non, mais attendez, il faut bien qu'il y ait des exceptions, sinon l'exception est une exception. Mais vous imaginez, moi je vois pas, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire, vous savez, dans la vie religieuse, hein, vous voyez les mecs, ils en bavent comme des Russes, enfin, ça dépend des règles, mais bon. Pauvreté, chasteté, obéissance, machin, levé, tout, jeune, tout, toute sa vie. Puis maintenant avec antibiotiques, 70 ans, hein, les jeunes qui rentrent à 20 ans, voilà. Alors la vie religieuse, voilà, ben, vous savez, la plupart des religieux, hein, pop, quand ils meurent, pop, péché mortel, vont en enfer. Jamais personne ne m'a dit ça. Et heureusement, parce qu'il aurait pris, bon, et non, peut-être pas, moi, enfin, c'est ce que je vous ai dit, c'est rien. Mais, voilà, et ben, voilà, et ça arrive, pourtant, il y a des religieux qui, à la dernière minute, sont apostolés. Les gars, ils se barrent, top, 75 ans, 80 ans, ils jonquent, mais dans le mal, hein.
Ça arrive, mais attendez, c'est quand même pas hyper courant, non? La plupart, je veux dire que la quasi-totalité des religieux qui observent leurs règles, ils sont, c'est même un des motifs de devenir religieux. Bon, donc c'est pareil pour le salut, quoi. Donc vous rassurez pas sur les trucs qu'on raconte parce que c'est faux. Alors vaut mieux, à la limite, voyez, en prendre, il y a un côté juste dans le pari de Pascal, c'est un peu dangereux, l'existence de Dieu, c'est pas un pari. Mais enfin, pour celui qui a des arguments, si vous voulez, ben, il vaut mieux être quand même prudent, quoi. En tout cas, là, pour quelqu'un qui a la foi, ne vous appuyez pas sur ce mythe de l'illumination finale qui n'a aucun fondement dans l'évangile. Il est dit « je viendrai comme un voleur », qui n'a aucun fondement dans le magistère et qui n'est enseigné que depuis une centaine d'années ou 200 ans. Bon, donc ça ne tient pas debout. Alors, il y a le jugement particulier. Donc l'homme est séparé. Et là, semble-t-il, un contact avec le Christ. Ça, c'est un peu mystérieux. Dans mon livre, là, j'ai un peu dramatisé la chose pour en faire un sermon. Hein. Donc, mais il semble probable quand même que toutes les âmes ont une connaissance intellectuelle du Christ au moment de la mort, parce que c'est leur juge. Et en fait, leur vie est référée à l'évangile. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Et donc, en fait, au moment de la mort, si vous voulez, vous avez l'évangile et vous avez notre vie. Ça cadre. En gros, on est sauvé. Ça ne cadre pas sur un point important, sur le disque dur, disons, du programme, on est damné. Il y a des petits bugs légers, on passe au purgatoire, vous voyez. Mais c'est instantané. Et personne ne discute, parce que c'est... Il y a une vision, par la puissance de l'intelligence à suffisamment forte pour voir toute sa vie, c'est le cas de le dire. Il y a certains moments, dire certains cas aussi, où il y a, juste avant de mourir, les gens voient leur vie qui défile très vite. Ça peut arriver aussi, je pense que ce n'est pas absolument universel. Hein. Mais là, ce n'est pas une défilée, c'est que tout est présent. Toute la vie est présente sous les yeux et en contact mystérieux avec l'humanité du Christ. Et donc, vous voyez, surtout le baptisé, vous voyez, qui voit il est une médaille frappée au nom du Christ. Est-ce qu'il rend l'image obscurcie par le péché, ou est-ce que c'est une image qui ressemble quand même au Christ? Il n'y aura pas de... Vous voyez, c'est pas quelque chose de terroriste, hein, parce qu'on dit, oui, mais vous, les mecs, vous êtes des moyenâgeux, ce qui pour moi, c'est pas une insulte, hein, vous pouvez me dire ça, des médiévaux, mais parce que vous, etc., je sais pourquoi vous aimez faire peur. Non, pas spécialement. Mais non, c'est pas d'être passé... Vous voyez, en fait, le Christ, Saint Bernard le dit, le Christ apparaît tel qu'il est. C'est-à-dire qu'il est, il est l'agneau. Donc il est infiniment miséricordieux, mais cette miséricorde est la pire des condamnations pour celui qui l'a repoussé. Et c'est pourquoi la miséricorde, le visage miséricordieux du Christ, est appréhendé comme un visage de colère. Donc c'est pour ça qu'on dit dans le billet tiré, donc, de nous délivrer de la colère qui vient, comme dit aussi Saint Jean-Baptiste dans sa prédication. Donc là, le jugement est instantané, l'exécution est immédiate. Il y a l'enfer, le ciel, le purgatoire. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de raison qu'il y ait un délai, et de fait, il n'y en a pas. Et on verra ensuite ce qui se passe au moment de la résurrection, parce que là, il n'y a que là. Alors, évidemment, c'est facile de dramatiser, de mettre en scène, si vous voulez, pour la mort du pécheur. Hein. Ça a été souvent fait par des prédicateurs. Hein. Et c'est vrai que pendant la mort de Voltaire, il voyait les démons qui montaient sur les coussins du lit. Là, j'ai un magnifique passage de Saint-Jean Chrysostome, on n'a pas le temps de lire. On voit les au moment de la mort, dans la vie même, il semble aussi que en fonction de la vie de chacun, il peut y avoir aussi une intervention des saints qui viennent, des démons, etc. Donc pour encourager ou pour combattre l'âme, c'est pour ça qu'on prie beaucoup pour les mourants. Dans notre ordre, nous, il y a même une liturgie spéciale. On récite les prières, on appelle la communauté, on chante le salvé, et les gens polis meurent à la fin du salvé. Vous savez, en général, on se débrouille pour... C'est bien, puis en plus il est magnifique, le salvé dominicain, très adapté au passage à notre vie. Et on raconte dans le naufrage du père Baumann, qui était écrit par son frère, qui s'appelle mon frère le Dominicain. Il a eu un naufrage dans un des grands naufrages de l'Atlantique, et il y a des gens qui ont pu partir eux dans les barques de sauvetage, et il a confessé jusqu'à la dernière minute sur le pont. Hein? Et à la fin, il était deux Dominicains, ils ont entonné le salut. Ils sont les témoins, et donc ils sont morts aussi. Donc voilà, il y a quand même un côté aussi consolant pour l'homme creuse. Mais moi, je pense que j'ai dû approcher des gens qui ont dû avoir la Sainte Vierge, j'étais venu les chercher, c'est possible. Enfin, il ne faut pas baver après ça, si elle vient, c'est tant mieux, on peut demander de venir, c'est pas absolument indispensable aussi. Hein. C'est bien, c'est sympathique. Bon, mais il ne faut pas courir après ça. Le christianisme, c'est pas ça. L'essentiel est, si on vous pose le test de Proust, là, je ne sais pas si vous êtes assez célèbre pour qu'on vous fasse, mais j'avais vu ça dans une revue, et c'était un archevêque qui a fait, je trouvais ça bien pour un archevêque actuel, qui disait, qu'est-ce que vous désirez le plus? Réponse, mourir en état de grâce. Je trouve que c'est sympathique. Alors donc, la dernière citation, c'est de Romano Guardini, dont je vous ai parfois parlé, c'était un des pères spirituels du pape actuel, Joseph Ratzinger. Alors, le passage que je cite là concerne le jugement dernier, mais en fait, il s'applique très bien au jugement en particulier, vous voyez. En fait, l'idée de Guardini, et je la trouve extrêmement émouvante, c'est que dans la vie actuelle, plus une chose est belle et noble, plus elle est faible. La preuve, vous cherchez à faire de la métaphysique, vous verrez. Vous cherchez à faire de l'art, les artistes souffrent beaucoup. Et tout ce qui est grand souffre. Parce qu'évidemment, c'est menacé, on est dans un monde vulgaire, pas simplement parce qu'on est au XXe siècle. Bon. Et ce qui est grand et noble, et c'est pourquoi Jésus se présente dans la ville lycée, si vous voulez, pour que nous ayons une réaction chevaleresque, si vous voulez, et que la vérité se présente sous des dehors de désuétude, de dérédiction. La vérité n'a pas la puissance correspondant à son sens. Mais au moment du jugement dernier, et déjà pour nous au jugement particulier, la vérité sera devenue une puissance, c'est-à-dire, pour Gardiner, la vérité remplira tout l'air, si vous voulez. Et donc à ce moment-là, le mensonge sera évacué. Il se réfugiera dans l'enfer, si je veux dire, mais... Et il ne pourra pas subsister, oui, c'est comme si tout l'air... Moi j'y pense des fois quand je suis dans le métro et tout, je me dis, quelle dose de vérité il y a dans l'esprit des gens? Il y en a quand même, il y a toujours quelque chose, mais laquelle? Et je crois que dans les grandes mégapoles, hein, c'est... Bon, dans le petit village c'est pareil, parce que moi il y a la télé, internet, donc c'est la grande égalité de la communication des idées bonnes ou mauvaises. Mais c'est vrai que bon, là c'est quand même plutôt souvent des mauvaises idées qui sont répandues, pas uniquement, mais quand même beaucoup. Donc la vérité n'est pas puissante, on le voit bien quand on cherche un temps d'antenne ou on fait une manif ou tout, on s'aperçoit que c'est un de mes amis qui me disait pourquoi on perd toujours. J'avais jamais fait cette réflexion, moi j'étais un peu habitué, quoi, mais je commençais peut-être, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on n'est pas souvent dans les hyper majoritaires qui, etc. Enfin, ça arrive, mais c'est des états de grâce très justice. Bon, mais alors là, la vérité sera puissante, et donc c'est formidable. Quelle libération pour celui qui veut la liberté, la vraie liberté, pour ce qui, en nous, tend vers la vérité, ce sera une expérience semblable à celle de l'homme sur le point d'étouffer qui arrive subitement en plein air. Donc le contact avec le Christ, pour l'âme en état de grâce, c'est comme si vous avez fait une apnée de 3 minutes 45 secondes et que vous arrivez à l'air. Voilà, maintenant, j'écoute vos questions.
Oui, j'ai une première question. Vous avez déjà abordé ce sujet, mais puisqu'on revient dessus, vous pouvez l'aborder de nouveau sur les thèses de certains théologiens qui disent que qui parient un peu sur une rencontre après la mort de l'âme avec le Christ et qui définira la conversion ou non.
Oui, c'est très attendu, c'est, disons que c'est à mon avis gratuit théologiquement et absurde métaphysiquement, psychologiquement. Parce que de deux choses l'une, où vous vivez, vous n'êtes pas mort, vous ne voyez pas le Christ. Où vous êtes mort, et là vous ne pouvez plus changer. C'est très simple en fait. Et seulement, c'est tellement, je ne sais pas pourquoi, ils veulent qu'après la mort, il y a un état un peu, qui est encore un état de choix. Bon, il n'y a plus d'état de choix. Je viendrai comme un voleur, prier parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ça concerne le jugement dernier. Et ça concerne si le maman ou le Christ se vient. Donc, C'est gratuit parce qu'il n'y a pas de fondement dans l'écriture et en plus c'est comme impossible. Une fois de l'autre côté, on est dans l'amour de Dieu ou on est dans la haine de Dieu. Mais on n'aura plus envie de changer. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Dieu ne se moque pas de nous. C'est-à-dire que c'est pas, si vous voulez, une espèce de loterie où on va être sauvé par un coup de bol. C'est pas ça. C'est toute notre vie, si vous voulez. Moi, ce que je crois très consolant, enfin, c'est un peu terrible, hein, tout ce que je vous dis aussi. Mais Saint Jean Chrysostome, il prêchait là-dessus, il disait, oh, vous faites silence, mais votre silence n'est plus, est plus pour moi un encouragement que vos applaudissements de tout à l'heure. C'est vrai que c'est un peu impressionnant, mais en même temps c'est encourageant, parce que vous voyez, je crois que ça veut dire, on se rendra compte que tout ce qu'on a fait a une densité, vous voyez, a été vrai, vous voyez, a une portée. Moi, une chose qui me frappait quand j'ai été agnostique, c'est que je me disais, eh bien, j'étais nihiliste, si vous voulez. Et je me disais, c'est absurde, quoi. Les gens sont des baudruches, des apparences, d'ailleurs personne ne pense à l'être. Les gens font des affaires, font du commerce, de l'économie surtout, je suis très curieux. Et personne ne pense à réfléchir à l'être, moi je vous dis, ils sont tous fous. Et puis surtout je me disais, mais ils sont légers quoi, ils sont... Et puis après, la justice ne triomphe pas, l'injustice triomphe, donc rien n'a de portée si vous voulez. Et donc du coup c'est le désespoir si vous voulez. Et pourquoi ça? Parce que je crois que quand on voit comme la réponse thomiste, qu'en fait notre âme, si vous voulez, notre âme est vraiment ce qui donne l'existence au corps. Donc tout ce qu'on fait a la dignité, si vous voulez, d'un esprit qui utilise un corps comme instrument, et c'est déjà un combat spirituel, et en plus avec la grâce du Christ, avec le baptême, c'est le Christ lui-même qui agit en nous. Donc si vous voulez, tout ce qu'on fait, par exemple, quand vous préparez une conférence, quand vous faites bon, vous avez des gens à confesser, vous, enfin, comme prêtre, hein, mais comme laïc, c'est pareil, vous éduquez des enfants, c'est très difficile, surtout aujourd'hui. Donc parfois, on peut se dire, mais... Ben, on aura la casquette, parce que à quoi ça sert, quoi? Et en fait, non, parce que tout ce qu'on a fait à son assisté dans l'amour de Dieu, vous voyez, ça, c'est en train de... c'est déjà l'éternité, vous voyez, je sais pas si je m'exprime bien, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait a une répercussion éternelle, et on s'en rend compte au moment où on meurt. On est encore plus dans la vérité juste après la mort qu'avant. Oui. C'est pas, on peut encore changer, non, c'est notre vie a été comme ça. Il faut donc que dans la vie même, il y ait une conversion radicale, oui. Alors, il peut, Dieu peut la donner, il la donne même à des pécheurs endurcis, des grands sectaires, même juste rapidement, mais c'est quand même plutôt rare. Habituellement, si vous voulez, le cours de la mort correspond à ce qui a été les derniers temps de notre vie. Pour une canonisation, on examine très attentivement toute la vie, et surtout les 5 dernières années. Donc c'est normal d'une certaine façon qu'il y ait une certaine correspondance entre... Parce que sinon il y aurait vraiment une... On arrivera, si vous voulez, à l'idée qui a été soutenue, on en parlera au moment de l'enfer, et bien que finalement personne n'opte en définitive pour l'égoïsme. Moi je préfère parler comme ça, pour l'égoïsme ou pour... Or l'expérience... Enfin, moi je vais vous dire, il y a une question qui est assez débattue chez les théologiens, c'est la question du nombre des élus. Hein. Et c'est vrai que c'est libre. Bon, c'est tout à fait libre, donc tout le monde est libre de penser raisonnablement ce qu'il veut. Mais moi, je suis quand même frappé à la fois par des arguments dans la théologie, par l'évangile et par mon expérience pastorale, que ce que disaient, quand vous lisez les auteurs théologiques, les auteurs spirituels, les pères de l'Église, l'évangile, la conclusion que vous en tirez, c'est je me bouge. Vous voyez ? Je me bouge, je tâche de. Voilà. Donc, c'est que c'est pas si évident que ça. Quand vous écoutez les modernos, je me coulise. C'est cool. Parce que, de toute façon, tout le monde est sauvé. C'est la position de Balthazar. C'est une catastrophe, cette position. C'est faux. Moi, je ne sais pas si vous avez cité une fois un exemple. Dans une retraite, j'avais une personne en confession. Bon, je crois que j'ai un certain nombre de centaines, voire de milliers de personnes, donc ça ne vous pourrait pas voir du tout. Et donc, elle accuse quelque chose. Alors, je dis, mais c'est grave. Je pense à quelqu'un, je ne sais plus quoi. Je dis, mais vous devez pardonner. Elle m'a dit, je ne peux pas. Je ne veux pas. Elle me dit, je ne veux pas. Je dis bon, mais vous donnez. Elle me dit je sais. Ah. C'est un des rares cas où j'ai refusé l'absolution. Mais je peux vous dire que vous n'emmenez pas l'argent. Et c'était pas une fondée, hein. Pas du tout. Pas du tout. Donc ça c'est un péché, si vous voulez, là, mais il y en a. Il y a aussi des péchés où des gens. C'est pas ça, mais ils se laissent aller, ils ne veulent pas faire d'effort. Bon, je ferai effort demain. Je ferai effort après-demain. Et puis après-demain, ils ont Alzheimer, ils ont machin. Plus la force. Donc vous voyez, c'est pour ça que quand vous lisez l'évangile et les pères, vous vous dites, ben, ce que dit Saint-Pierre, faites votre salut avec crainte et tremblement. Ça ne veut pas dire qu'on va être corrompu tout le temps. Vous voyez, moi je suis joyeux. Enfin, je sais pas. Mais il y a un enjeu, quoi. Il est possible, et d'après l'écriture, il y en a en effet beaucoup qui prennent une mauvaise. Donc pour moi, c'est très pernicieux. Je vais vous dire une chose. Je pense que la crise actuelle qu'on vit en civilisation, en Église, tient en grande partie à une crise des fins dernières. C'est une idée de Ratzinger, dans la conférence de 89, j'ai beaucoup utilisé. Et il est vrai qu'une civilisation qui n'est plus motivée, si vous voulez, par le bien commun temporel, le bien, il n'y a pas l'idée qu'il y a un bien commun pour la société civile, et qui n'a plus l'idée d'un bien commun spirituel qui est l'éternité à gagner, bah, elle est plus dynamique. Elle est plus dynamique. Une des forces de trucs comme une des forces dramatiques de l'islam, c'est qu'il y a une notion très forte de la rétribution. Si tu es musulman, tu as récité la shahada et tu as fait les 5 piliers, tu es sauvé. Sinon, c'est fif. C'est un enfer. Il faut marcher sur le chemin. Donc il y a une idée. Il parle tout le temps du. Un peu trop. Hein. Mohamed, il parle tout le temps du jugement dernier. Mais c'est quand même une. C'est aussi. Ça booste, quoi. Et là, nous, les Occidentaux, il faut quand même se réveiller. Parce que sinon, si vous voulez, on a un truc de plus en plus gélatineux. Et non, le christianisme, attendez, le Christ est miséricordieux, mais il est juste. Et je vais vous dire, si il n'était pas juste, à moi il m'intéresse pas. Et je fais partie des gens qui ont vu, enfin vous aussi, vous en verrez, suffisamment de la justice pour souhaiter qu'elle soit châtiée, parce que c'est bien. Je souhaite que les gens se convertissent, et je souhaite aussi qu'il y ait une justice. Mais quand il y a des meurtres, des trucs affreux, il faut se dire, bon, je pardonne aux types, etc. Mais il faut demander aux responsables d'exercer la justice coercitive. Parce que c'est la première des charités. C'est pas, je ne suis pas sanguinaire spécialement, hein. Ma soeur pourra vous dire que je tombe dans les pommes quand on prend le sang, mais je ne suis pas spécialement sanguinaire. Mais c'est comme ça. C'est la première des charités, c'est de dire on va protéger les petits en appliquant le premier droit du délinquant. C'est la,
c'est la peine. C'est un droit fondamental du délinquant. Demandez au père Petit Clerc qui fait de la poussière dans les banlieues, c'est son droit. Et donc, moi, je souhaite qu'il y ait une justice. Et sinon, si on n'a pas, on a dit, non, nous sommes les plus malheureux des hommes comme Saint-Paul, mais alors franchement, tout le monde s'est gouré pendant longtemps. Et... Donc je pense qu'il y a un amollissement, je ne sais pas si c'est une maladie d'amollissement du cerveau des théologiens, mais moi je crois que je vis ça, on vit ça, on est amolli du bulbe. Et pourquoi les gars, ils se barrent, ils quittent le christianisme, et ils passent à l'islam, parce qu'ils disent, moi je me souviens encore une fois, au moins là, c'est carré là. Bah oui, pas trop, mais enfin bon. Et du coup, c'est carré, il y a un truc à faire, il y a un rituel, tu fais ton rituel. Alors je ne dis pas qu'il faut faire ça, bien entendu, je ne reste pas le fondamentaliste catholique, mais je dis qu'il y a quand même une réalité. Si le Christ est intéressant, c'est que précisément, il est la miséricorde d'un Dieu juge. Mais s'il n'est pas ça, s'il n'est pas Dieu, s'il n'est pas juge, il est miséricordieux, mais moi aussi. Enfin, pas trop, mais moi, mais bon, j'essaie. Donc c'est un événement humain, quoi. Et donc on essaye d'attirer les gens, et les églises se vident. Parce que les gens savent bien que c'est faux. Ils sentent que c'est faux. On sent bien qu'il y a trop besoin d'une justice, quoi. C'est trop injuste comme calumet, c'est trop injuste. Donc il faut bien qu'il y ait une justice, je dis, il n'y a pas de justice. Donc je suis très attentif, si vous voulez, à... Bien sûr, il faut encourager la miséricorde, hein. Tant que nous existons, je vais vous dire un truc. Tant qu'on existe, on peut se convertir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Dieu veut le salut de tous les hommes. Donc, à un moment donné, à chaque moment de notre vie, il nous donne une grâce. Si j'acquiesce à cette grâce, même si je suis complètement, j'ai tué 56 personnes et là, si j'acquiesce à cette grâce, je vais en avoir une autre qui va faire que je vais aller plus loin, que je vais peut-être recevoir la foi et la charité, que je vais me confesser, que je vais être sauvé. Vous voyez ? Et si je refuse, vous voyez ? Alors là, je sèche le processus. Alors Dieu peut encore en donner une deuxième. Et quelquefois, il peut me faire mourir pour éviter que je sois encore plus puni en enfer. Mais il faut se rendre compte qu'un type qui est vivant est forcément dans une chaîne possible de grâce qui vont convertir. Donc il ne faut pas faire le procès de Dieu en disant quoi, c'est injuste, attendez. Chaque instant, le gars a une grâce pour pouvoir se retourner vers Dieu. Je ne dis pas pour devenir du jour au lendemain de la société de Marie et machin, et aller à Lourdes avec des saintes vierges qui me tentent et machin. C'est pas ça, non. Mais pour faire un pas, peut-être lire un bouquin ou écouter Pascal, quoi, lire les pensées de Pascal, je ne sais pas, s'il a un télo. Bon, il fait un pas, après un deuxième pas, tiens, etc. Et s'il fait ces pas-là, il sera sauvé. Ce que dit Journet, il faut mourir en montant. Et Pascal le dit très fort, j'ai une immense compassion pour celui qui doute. Il y a des gens qui doutent, ils n'ont pas trouvé. Dans l'exemple de Charles Maurras, par exemple. Moi, je fais de la pub pour le détail de ses idées politiques, quoi, qu'il y en ait quelques-unes qui soient bonnes. Mais pour l'exemple de son agnosticisme qui était coupable, parce qu'il avait rejeté la foi librement, il a recherché. Vers la fin de sa vie, il a fini par la trouver grâce au prière du Carmel de Lisieux. Mais à un moment donné, on lui cassait les pieds, certains de ses amis prêtres, et il leur a répondu, mais je ne peux pas vous dire que je vois alors que je ne vois pas. Et on ne savait pas à quel degré de son chemin il en était. Finalement, à la fin de sa vie, il a dit, pour la première fois de ma vie, j'entends quelqu'un venir, qui était sourd comme un pot. C'est pour ça qu'il s'est révolté, d'ailleurs. Il n'a pas pu faire la marine, et tout ça. Mais c'est beau, vous voyez, comme chemin d'enquête. Je pense qu'on ne sait pas à quel stade il en est. Donc on ne peut pas juger. On a notre cousin agnostique et tout. Il faut qu'il cherche, quoi. Celui qui cherche, ça va, même s'il n'arrive pas au bout du processus. Celui qui dit non, je ne cherche pas, et qui en plus s'en fait une gloire, il se met en très grand danger. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre une juste conception sous le... je pense pas qu'il y ait de conception chrétienne du millénarisme.
Non, d'avènement du Christ.
L'avènement du Christ, oui. Il y aura un avènement du Christ, mais quand l'avènement du Christ mettra fin à l'histoire. Alors, il y a quand même ceci, donc il n'y aura pas 1000 ans où tout se passera bien. Il y a quand même ceci, qu'il faut quand même lutter pour que la loi du Christ soit reçue au maximum, même dans la mesure où la loi naturelle peut être appliquée et inspirée par l'Évangile, dans les structures sociales, familiales et politiques. Parce qu'il y a aussi une façon de dire, oui, de toute façon, la chrétienté c'est que des hypocrites, donc c'est pas la peine de se fatiguer, et c'est beaucoup mieux que ce soit pluraliste, etc. Je veux bien, mais je ne sais pas trop si c'est beaucoup mieux. Il y a quand même un devoir, d'ailleurs, enfin c'est comme l'enseignement stable de l'Église, dans la doctrine sociale de l'Église, de lutter pour que le règne du Christ, si vous voulez, soit reçu par les décideurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être hypocrites, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire des péchés, etc. Mais ça veut dire qu'il y aura quand même plus de bien. L'abbé Berthaud, j'ai connu, j'ai eu l'honneur de le connaître personnellement, ce petit chouan avec ses gros sourcils, ce petit chouan morbihanais qui a consacré toute sa vie à l'éducation, et aux banlieues de l'Orient, c'est quand même les banlieues avec les HLM, hein. C'est le premier des premiers qui a dénoncé les HLM.
disait la réforme préalable à toutes les autres, c'est la restauration du droit chrétien. Et Dieu sait si lui, hein, ça, il était pauvre et il se battait pour les pauvres. Parce qu'il dit, le riche pourra toujours trouver une école, pas difficilement maintenant, mais enfin bon, mais le pauvre, on lui colle l'école publique, et donc il faudrait au moins qu'on lui enseigne la loi naturelle dans l'école publique, vous voyez. Donc il y a un combat à mener, et moi je suis quand même étonné, vous voyez, par exemple, que je sais bien qu'il y a eu des péchés dans la chrétienté. Je termine de lire un bouquin de Vigry, de Louis XVI de Vigry, qui est, bon, quand vous terminez, vous pleurez un peu, mais bon, ça va ça de la pourriture incroyable de la haute aristocratie, d'une partie du haut clergé, au XVIIIe siècle, d'accord, il y avait des horreurs, etc., etc., hein, et d'autres choses encore. Mais cependant, des masses de gens avaient des voies d'accès au salut plus faciles. Parce que publiquement, si vous voulez, on avait accès à une certaine, au moins un certain nombre de petites écoles gratuites, etc. Il y avait une imprégnation chrétienne. Alors je sais bien qu'il y avait l'hypocrisie, mais enfin quand même, il vaut mieux que, disons que le conformisme, enfin, c'est un peu dangereux parce qu'il y a toujours le danger d'hypocrisie, mais il vaut mieux quand même que dans les grandes lignes, le conformisme aille vers le bien, non ? Enfin, en gros, sans trop exagérer, parce qu'il faut une marge de liberté. Mais par exemple, s'il y avait un conformiste qui permettait de tuer, ce qui arrive maintenant, ben écoutez, ça va être un progrès. Maintenant, il y a un conformiste qui permet de tuer les enfants quand ils ne sont pas nés. Bientôt, ça va être le vieillard. Ensuite, je ne sais pas qui, etc. Où est-ce que ça va s'arrêter ? Alors on dit, oui, mais conformiste, c'est de l'hypocrisie. Moi, je dis, il y a peut-être quelques personnes qui sont hypocrites parce qu'elles ne tuent pas les gens alors qu'elles croient que c'est un devoir moral de tuer les gens. Mais ça fait quoi ? Ça fait quand même pas beaucoup de gens. Vous voyez, il vaut mieux qu'il y ait quelques-uns qui fassent par accident un péché. Je crois que j'ai le devoir de tuer le Roumi, bon, il ne tue pas, mais il fait un gros péché lui, d'accord ? Plutôt que des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de gens tombent dans le mafiosisme, peu à peu, parce qu'on n'y tombe pas d'un seul coup, parce que le consensus est que l'escroquerie ou le meurtre n'a aucune importance. Et dans certains pays d'Amérique latine, un meurtre, ça coûte, je ne sais pas, quelques milliers de c'est comme ça, le pays d'un type, il va, il tue. Donc il vaut mieux que la pression sociale soit pour tuer le tueur. Enfin, je suis désolé, c'est comme des trucs complètement de bon sens. Et donc c'est pour ça que l'aspect vrai du millénarisme, c'est qu'il n'y a pas de millénarisme, qu'il y aura toujours du mal et que ce sera toujours raté. C'est comme la guerre civile. Comme dit Bruce Berger, la guerre civile, quoi qu'on fasse, c'est mal fait. Bon. Alors l'organisation politique, quoi qu'on fasse, c'est raté. Mais il faut que tâcher que ce soit le moins raté possible. Et le droit public de l'Église contribue à ça. Donc c'est ça le vrai millénarisme. C'est-à-dire qu'on va tâcher de faire qu'on écoute les conseils de l'évangile, les conseils du décalogue, pour faire le moins de mal possible et le plus bien possible, en laissant un espace de liberté aux gens, c'est pas des autres. Mais c'est dangereux, c'est très dangereux de millénarisme. Le grand monarque, le grand roi, tous ces bidules, c'est la cata. Les gars, déjà, ils font pas grand chose, mais ils sont complètement les plus. Et en plus, c'est souvent associé à des fantasmes de complot judéo-maçonnique qui gouvernent tout, il n'y a plus rien à faire, on est foutu. C'est absolument abominable, à mon avis. Enfin, ça, c'est comme docteur privé. Allez-y. Oui ? Deux questions encore ? Oui ? Allez-y.
Pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible aux démons de se convertir ?
Ah, parce que c'est sa nature. Si vous voyez, il a fait son choix, il ne veut pas. C'est parce qu'il ne veut pas. Mais quelqu'un qui est obstiné. Bah vous, parce que nous on est dans un corps, vous voyez. Donc nous, quand on prend une décision, on amène un raisonnement à partir d'informations, vous voyez. On pèse ces informations et on choisit d'être pompier ou curé, par exemple. Il y a un uniforme dans les deux cas, c'est sympa. Bon, on choisit. Et il y a des inconvénients aussi dans les deux cas. Alors, on choisit. Mais le démon, c'est nous on a besoin de temps. Et donc une fois qu'on a choisi, ah ben non, ben lui, je ne savais pas quand même que les femmes ça brûle, donc je préfère pas être pompier, moi. Vous voyez, on peut changer parce qu'on n'a pas tout considéré, mais le démon, il considère tout d'un seul coup. Donc il choisit. Et il ne veut pas après changer. C'est sa dignité. Si vous voulez, il préfère être le premier en province que le deuxième dans le royaume de Dieu. Il ne veut pas recevoir de Dieu. La vie est surnaturelle. Il préfère rester dans sa beauté de Lucifer et se complaire à l'acte de sa beauté angélique en se regardant lui-même et la beauté du diable. Il a choisi, ça y est. Et il se nourrit, si vous voulez, de la joie de refuser à Dieu, de tenir Dieu en échec, en quelque sorte. Vous avez une autre question ? Un plus fort. Oui ?
Récemment,
J'ai pas entendu. Excuse-moi, Jean-Louis, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Oui. Voilà, mais. Là, voilà. Ben, c'est la nature des choses, si vous voulez. C'est que l'Église n'a pas tellement. Quand j'ai dit la doctrine de l'Église, parce qu'en fait, elle l'enseigne. Mais en gros, elle rappelle le droit naturel. Et la famille conçue comme l'union indissoluble de deux personnes de sexe différent en vue de s'entraider et d'éduquer des enfants, des autres êtres humains, pour eux-mêmes et pour la cité, c'est une donnée absolument basique de toute l'humanité. Ratzinger a dit, enfin il était déjà pape, si on sort de ça, on sort de toute l'histoire morale de l'humanité. Donc si vous avez deux personnes, qui ont un enfant pour se faire plaisir, en fait, ils ne sont pas les parents, ni physiques, ni moraux, ni rien. Et d'abord, l'enfant, il y a des conséquences absolument catastrophiques pour la structuration. Il a besoin de la différence, parce que le sexe n'est pas quelque chose de purement biologique. Il y a toute une différence spirituelle, même presque mystique, enfin spirituelle, psychologique, etc. Et il a donc besoin du père pour affirmer la loi, de la mère pour être, etc., un autre, plus la paix de l'amour, etc. Enfin, tout ça, il y a tout un ensemble. Et s'il n'a pas ces deux pôles pour se construire vis-à-vis de personnes dont lui, il sait que ce sont des gens qui ont investi leur vie à prendre le risque de donner la vie, qui suppose une dose d'espérance inouïe. Parce que mettre des enfants au monde, c'est croire que ça vaut la peine. On ne va pas faire des espèces de déchets pour qu'ils traînent une vie lamentable et qu'ils soient des bulles au-dessus de l'immense marécage du monde. Ça veut dire que donc, pour admirer ses parents, vous avez eu le courage de mettre au monde un être, et surtout de consacrer 20 ans, 25 ans de votre vie, parce qu'enfin 35 ans pour les adolescents tardés, ah, c'est dire vous quoi. Bon, moi je suis passé. Nous on était un petit peu plus précoce. Mais bon, on avait d'autres défauts. On envoyait quelques pavés aussi. Mais donc, 35 ans de sa vie, et puis après quand on est grand-père ou arrière-grand-père, on se réinvestit encore plus parce que bon. Et bien c'est admirable. Et donc le gosse, il admire ses parents. Or, l'être humain a besoin d'admirer, tout le monde, surtout les garçons, hein, mais les filles aussi, mais l'être humain a besoin d'admirer. Et quelqu'un qui n'a pas admiré, ben il tue. Enfin, ou si tu passes parce qu'il est trop paresseux, mais enfin moi personnellement, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais tué. Parce que tout est absurde. Et les parents vont mis au monde pour se faire plaisir, ou pour le plaisir sexuel uniquement, bon, soit pour avoir le confort affectif d'avoir un petit nounou qui a les yeux bleus, ou qui a des boucles, et qui a le prix de bonne humeur, ou des trucs comme ça, au hasard. Vous voyez, on se fait plaisir. Et en fait, vous voyez, le drame, c'est qu'actuellement, la plupart des raisonnements sont par rapport à la personne, sans tenir compte de la nature. Les philosophes, prenez note, c'est un drame, ça. L'existence consiste pas à se faire plaisir entre personnes avec des relations interpersonnelles. L'existence, évidemment, consiste en ça aussi, mais ça se fait par le biais d'une nature commune qui est la nature humaine sauvée par le Christ. Et donc, l'enfant n'est pas un droit d'enfant ou un droit de pas d'enfant. L'enfant est un élément d'une aventure inouïe qui me dépasse, qui est l'aventure presque divino-humaine de l'espèce humaine, et de la cité, et de l'Église. Et donc, je ne suis qu'un des éléments, un des serviteurs, à tel point que même le père de famille, en nombre naturel, doit éventuellement mourir pour sauver ses enfants, mais aussi pour sauver la patrie. Donc ça montre bien que c'est au-delà de la personne. Parce que si vous dites que la personne, il y a ma femme, il y a moi, ben, je ne vais pas aller au front pour défendre mon pays. Donc voilà, c'est contre la raison. Mais il faut vous dire que la raison humaine, elle souffre de passion, et surtout dans ce qu'on appelle le droit naturel secondaire, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a un droit naturel primaire, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Bon, ça, en gros, les gens comprennent. Bon. Mais le droit naturel secondaire, qui est une conséquence éloignée, une détermination du décalogue, eh bien il faut la civilisation, il faut des temps, il faut des siècles pour que les sages, la jurisprudence romaine, la réflexion des philosophes, l'influence des prêtres, arrivent à faire que, par exemple, dans le droit de la guerre, on ne tue pas les prisonniers. Avant, on tuait les prisonniers, on les réduisait en esclavage. Dans le droit maritime, un gars qui était dans l'eau, on lui tirait dessus. Maintenant, on sait que bon, le naufragé n'est plus un injuste agresseur. Mais tout ça, c'est du jus d'ensium, c'est-à-dire qu'il faut une démarche de la raison qui montre qu'il est plus digne pour l'homme d'agir ainsi. Et donc, la civilisation est fragile. Parce qu'il faut des dizaines d'années pour arriver à élaborer ce droit des gens, mais il suffit de quelques connards pour la faire sauter en quelques dizaines d'années. Enfin, depuis 68, hein. C'est-à-dire qu'avant 68, c'était impensable. Un truc comme ça, ça passait pas. Mais comme ils ont pris le pouvoir culturel, évidemment, maintenant, ils en sont à la prise de pouvoir juridique, disons, pour détruire la nature humaine. Donc, à mon avis, on sort de l'histoire morale de l'humanité. Deuxième marque.